Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, c'est lundi. Très bon réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La rentrée scolaire légèrement bousculée pour les élèves du Var et des Bouches-du-Rhône, contraints de rester à la maison. Une journée de plus, rentrée décalée à demain en raison des intempéries attendues sur la région. À une semaine du vote de confiance à l'Assemblée nationale, la petite main tendue de François Bayrou au parti d'opposition à quelques heures du début des consultations politiques à Matignon. Et Lyon, roi des Olympiques, tombeur de Marseille 1-0 en clôture de la troisième journée de Ligue 1.
7h, et c'est l'heure du petit déjeuner pour 12 millions d'élèves qui font leur rentrée ce matin.
Les vacances appartiennent désormais au passé. L'heure est venue de retrouver les copains, les classes, avec un cartable sur le dos. La cloche qui ne sonnera pas en revanche dans le Var et les Bouches-du-Rhône placées en vigilance orange. Aux orages, pluie et inondations avec 5 autres départements, la rentrée scolaire est décalée à demain. 500 000 élèves sont concernés. Leurs parents ont été prévenus hier en fin de journée, contraint Lougarnier de revoir leur plan.
Porte close pour les écoles aujourd'hui. La nouvelle est tombée hier en fin d'après-midi. De quoi prendre au dépourvu ses parents marseillais comme Yasmine qui travaille ce matin pour faire garder sa fille. Elle a dû improviser.
Ah ben c'est le bazar. J'ai appelé mamie papy au dernier moment et je leur ai dit voilà, il faut que vous me gardiez Louisa parce qu'elle n'a pas école. Ils ont dit oui, mais ceux qui n'ont pas mamie papy, je me demande comment ils font.
Système D aussi pour les parents d'Anaïs qui lui ont confié son petit frère. Elle est en télétravail le lundi. Pas l'idéal, mais ce report de la rentrée à cause des intempéries était nécessaire pour elle.
Au moins chacun reste chez soi, au chaud avec ses parents et puis la rentrée, de toute façon, elle se fera quand même.
D'autres, comme Valérie, prennent la nouvelle avec le sourire. Elle ne travaille pas cette semaine. Alors cette journée, c'est l'occasion de finir les derniers préparatifs pour la rentrée de son fils.
On va déjà achever d'acheter ses affaires. Ça sera pas mal. Et de profiter pour l'emmener au coiffeur.
De quoi réjouir Ethan, plutôt content de voir sa rentrée en CM1 décalée d'une journée.
Je suis trop heureux.
Mais pas question de se rendre dans les parcs de la ville fermés par la mairie aujourd'hui, qui a aussi interdit la baignade sur les plages.
À noter également que de fortes pluies sont tombées hier soir et cette nuit dans le Gard. Une rentrée sous haute tension pour François Bayrou. Il est attendu dans une école de Pau ce matin, avant un retour sur Paris dans la journée et le début des consultations avec les partis d'opposition. Les communistes ouvriront le bal à 17h. Le RN a rendez-vous demain. Ce sera jeudi pour les socialistes. Et à 7 jours du vote de confiance de l'Assemblée nationale, la mission sauvetage du Premier ministre semble vouée à l'échec. Il ne s'avoue pas vaincu pour autant. Dans un exercice de pédagogie hier soir sur les 4 chaînes info, dont BFM TV, le Premier ministre s'est dit ouvert à la discussion sur la suppression des 2 jours fériés avant de prendre les Français à témoin et de les alerter sur le sort qui les attend en cas de chute.
Si le gouvernement tombe, comme il le souhaite, comme il l'annonce, comme ça veut dire qu'on changera de politique. On abandonnera la politique, pour moi, vitale pour le pays. La politique sans laquelle le pays se place en danger extrême. Qu'on abandonnerait cette politique pour en prendre une autre, plus laxiste. La question, c'est le destin de la France.
Il est 7h03, vous écoutez RMC. Le froid de l'hiver n'est pas encore là. Pourtant, la bronchiolite sévit déjà. 4 régions sont en seuil pré-épidémique. Une maladie qui s'attaque aux bronches sans réelles conséquences pour les adultes. À l'inverse, des nouveau-nés particulièrement vulnérables. C'est la première cause d'hospitalisation chez le nourrisson de moins de 1 an. Et pour lutter contre la maladie, il existe un vaccin, le Befortus, administré dès aujourd'hui, gratuitement à la maternité pour les nouveau-nés, campagne de prévention qui débute avec 2 semaines d'avance par rapport à l'an dernier et qui rassure ses parents rencontrés par Ameline Lafchin pour RMC.
Maman d'un petit garçon de 2 mois, Cécile n'avait pas encore été informée par son médecin de la campagne de prévention.
Bah, comme j'ai déjà rendez-vous la semaine prochaine, on pourra en parler.
Et elle espère que son fils Maxence pourra vite recevoir son injection.
Comme il va aller à la crèche en plus dans les prochains mois, ça va être aussi un nid à microbes.
Enceinte de son deuxième enfant, Julia, elle a pu faire vacciner sa fille dès sa naissance. Mais pour cette grossesse, c'est elle qui recevra l'injection.
Le bébé est prévu en pleine épidémie, en plein hiver. Ça fait très peur parce que tous les ans, on voit énormément de bébés hospitalisée. C'est vraiment le cauchemar de toute maman. Si je peux faire quelque chose pour prévenir ça, je le fais.
Une injection qu'elle pourra se procurer en pharmacie dont les stocks ont été remplis pour cette nouvelle campagne. Pédiatre Christophe Battard rappelle l'importance de cette vaccination.
Ces injections permettent de diminuer de plus de 80% le nombre de bronchiolites graves, d'hospitalisation et d'hospitalisation en réanimation. Dès la naissance, les gens viennent tous embrasser le petit bébé et c'est là qu'ils font les bronchiolites graves.
La campagne insiste aussi sur les gestes à adopter, comme se laver les mains régulièrement ou porter un masque en cas de rhume, de toux ou de fièvre.
On en vient à cette sordide affaire, celle d'un policier de la brigade des mineurs. Il est jugé ce lundi devant la cour criminelle des Bouches-du-Rhône. Son profil interpelle accusé Guillaume Bier de détention d'images à caractère pédopornographique, mais aussi de viol et d'agression sexuelle sur deux jeunes adolescents. C'était à Magny en 2018.
Oui, avec un art de la dissimulation pour ce pédocriminel présumé enquêteur d'un côté et de l'autre président d'une association de protection des enfants pauvres aux Philippines. Une double facette, dénonce Anastasia Pichugina, avocate partie civile pour l'association Agir contre la prostitution des enfants.
Il a eu accès à des victimes dans le cadre des dossiers qu'il a eu à traiter et puis il a eu accès à une population fragile lorsqu'il s'est déplacé à plusieurs reprises aux Philippines.
C'est là-bas qu'il aurait violé et agressé sexuellement deux frères de 11 et 15 ans à l'époque, qui, c'est très rare, témoigneront à distance lors du procès de cet ancien policier qui avait déjoué les rares soupçons de ses collègues.
À chaque fois qu'il est interrogé là-dessus, quelque part, il balayait ça d'un revers de la main en disant « ça, c'est un jeune qu'on a aidé dans le cadre de notre association, ça, c'est un filleul de cœur, donc je le suis ». Et l'explication était acceptée par ses collègues et leur vigilance trompée, alors que c'est quand même leur boulot de déceler ce type de comportement et de les poursuivre.
L'ex-policier, décrit comme affabulateur, n'a reconnu qu'une partie des faits qui lui sont reprochés. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
La colère des habitants des Corbières dans l'Aude, massif calciné par les incendies cet été et où des milliers de personnes sont rassemblées depuis le début du week-end pour une rave party, plusieurs centaines étaient toujours sur place hier soir du côté de Fonjousse. Nous serons en direct dans le journal de 7h30.
Il est 7h06 sur RMC. Lyon remporte le duel des Olympiques face à Marseille.
En supériorité numérique pendant plus d'une heure, les Lyonnais ont réussi à percer la défense marseillaise dans les toutes dernières minutes de la rencontre. 1-0, score final qui permet aux Lyonnais d'enchaîner un troisième succès de rang. Côté marseillais, Valentin Germain, l'ambiance est tout autre.
Oui, 3 points sur 9 à la trêve, Marseille est loin de ses ambitions, plombées par des erreurs comme l'exclusion d'Egan Riley hier soir après 30 minutes ou le contre son camp de Balerdi, capitaine déjà usé.
C'était triste la soirée. Pour le vestiaire, c'est dur, il faut se tranquilliser parce qu'un défaite comme ça, c'est très dur pour la tête et il faut rester humble. Maintenant, on a la trêve, on doit réfléchir et ce qu'on a fait mal.
Car dans ce choc au scénario contraire, Marseille n'a presque rien montré. Le contexte tendu, marqué par la mise à l'écart de Rabiot qui part au Milan AC, n'aide pas vraiment, concède le gardien Geronimo Rulli.
On a perdu deux joueurs très importants aussi. On a des blessés aussi. Pour le moment, il faut travailler plus, attendre les prochains matchs pour gagner.
L'OM n'a plus le caractère de l'an passé et l'entraîneur de l'équipe, Roberto De Zerbi, le regrette.
On a souffert plus qu'eux, même si au final, ils n'ont pas forcément beaucoup d'occasions. Il faut du courage et de la personnalité. Si on pense que l'on peut se recroqueviller à 5 derrière, ce n'est pas la bonne mentalité quand on veut jouer dans un gros club.
La grande squadra.
Les Marseillais vont essayer de se recentrer pendant cette trêve internationale alors que deux défenseurs doivent signer aujourd'hui.
Et puis notez qu'il n'y a plus de Français à l'US Open depuis l'élimination hier soir d'Arthur Rinderknecht, battu en 3-7 par le deuxième joueur mondial Carlos Alcaraz.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08 et vous le savez, on vous couvre de cadeaux pour la rentrée d'RMC. Jusqu'à vendredi, vous allez remporter 1000 euros ou alors si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous pouvez repartir avec la totale. Un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2, une montre connectée Garmin, un abonnement annuel à Ligue 1 Plus et un séjour à la Grange Vacances. Vous pourrez même remporter la super totale qui se cache dans un des coffres de la journée. Cette super totale avec tous ses cadeaux, plus 10 000 euros. Dès que vous entendez ceci, eh bien vous savez que vous avez 5 minutes donc pour envoyer coffre au 732-16. Coffre au 732-16. Bonne chance à tous. Et on part au 32-16 justement avec Zila qui est chauffeur de bus dans la Loire. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous
très,
Zila?
Très bien, je suis à mon travail, je départ dans une minute, mais c'est pas grave.
Ah, départ dans une minute. Alors on y va vite. Zila, vous vouliez réagir à cette gratuité des transports en commun
qui a été
annoncée à Marseille et à Rouen pour les plus jeunes. Vous en pensez quoi, vous? Vous êtes aux premières loges.
Je pense que c'est pas une très très bonne idée parce que déjà, on n'a pas beaucoup de contrôleurs, nous. Quand on essaie de les solliciter, ils font ce qu'ils peuvent pour venir. Ça va engendrer des incivilités, des agressions, déjà qu'on en a pas mal dans la Loire. Et je trouve ça vraiment dommage. Et
des incivilités, c'est-à-dire que si c'est gratuit, ils feront pas gaffe, quoi.
Voilà. On aura plus de petits jeunes qui viennent se promener. Moi, j'en prends souvent. Je travaille tous les week-ends. J'ai travaillé hier, je travaille avant-hier. Et on prend des jeunes qui payent pas. on s'en fout, nous on est chauffeurs, hein, on n'est pas contrôleurs. Et quand on sollicite les contrôleurs, ou... parce que nous on a des bus électriques à 100% électriques nous dans la Loire. Et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas assez de contrôle en fait. Je veux bien la gratuité pour certaines personnes, les personnes âgées, les plus jeunes, les moins de 4 ans, mais ça va engendrer des incivilités, des agressions encore plus.
Si c'est jusqu'à moins de 18, comme ça va être le cas à Marseille, vous vous dites, en fait, ils auront moins de respect, encore moins de respect.
Exactement, mais déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Exactement.
Comment vous faites, vous, au quotidien? Vous avez des agressions, des incivilités, des...
On a des incivilités, oui, bien sûr, on a des incivilités.
Mais on essaie de solliciter les contrôleurs.
Quand on appelle les contrôleurs, ils nous disent de faire des remontées à nos plus hauts dirigeants. Et on fait des remontées, mais il n'y a jamais de descente.
Oui, c'est ça. Ça remonte, mais ça redescend pas, quoi.
Exactement.
Ok. Merci Zila, je vous laisse repartir puisque le bus s'apprête à partir et que vous alliez prendre le volant. Merci en tout cas d'avoir témoigné sur RMC. Il est
7h10. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Impliquer les parents pour faire progresser les enfants, c'est votre stratégie depuis 13 ans. Jérémy Fontagneux, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée de région parisienne. Et votre parti pris pour cette rentrée, c'est que non, les enseignants ne peuvent pas tout et qu'il faut même arrêter avec le mythe du prof héros. Il faut être main dans la main avec les parents, chacun son rôle. Vous défendrez votre point de vue dans un instant. Il est 7h11 sur RMC.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14. Très bon réveil à tous. Et on pense en particulier à tous ceux qui ont mis leur réveil ce matin après les vacances. C'est la rentrée pour 12 millions d'élèves ce matin et 850 000 professeurs. Rentrée qui rime aussi avec difficulté pour certains élèves. Bonjour, Jérémy Fontagneux. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée de région parisienne. Merci d'être dans ce studio. Avant Bonjour. Vous-même, votre rentrée, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle, un livre, devrais-je dire, en plus je suis devant un professeur, Le mythe du prof héros. Et il y a 13 ans, vous avez lancé une méthode originale qui est baptisée Réconciliation pour impliquer les parents pour faire progresser vos élèves. L'idée, c'est quoi? C'est de faire une sorte de pacte avec les parents?
Oui, en fait, la grande difficulté qu'on a en tant qu'enseignant, moi je suis en lycée comme vous l'avez dit, mais c'est pareil en collège, c'est pareil pour les profs des écoles qui accueillent les enfants ce matin, ma femme est professeure des écoles à Sarcelles, c'est que les enfants, les adolescents qu'on a en face de nous ont beaucoup de raisons de ne pas avoir envie de faire ce qu'on leur demande. Ils ont la flemme, ils manquent de confiance en eux, il y a le regard des autres, il y a les écrans, les réseaux sociaux, etc. Donc quand ils sont à l'école, ils ont du mal à faire les efforts nécessaires à leur réussite et ils ont du mal à faire ce qu'on leur demande, à être concentré, à répéter des tâches qui sont parfois désagréables, etc. Et du coup, pour nous, en tant qu'enseignants, c'est très frustrant parce qu'en fait, on est seul. Et c'est difficile d'arriver à secouer, en quelque sorte, les élèves, à arriver à faire en sorte qu'ils fassent ces efforts-là. Et du coup, c'est ce sentiment d'impuissance ou de frustration qui nous a amené avec un collègue il y a quelques années à commencer à travailler avec les familles, ce qui est très contre-intuitif pour nous en tant qu'enseignants parce qu'on nous a plutôt formés de façon solitaire et les parents souvent se les représentent de manière un peu négative parce qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer, mais une série d'accidents.
Ça se passe comment concrètement? Au début de l'année, vous organisez une réunion, vous leur parlez comment?
En fait, la méthode est basée sur deux piliers. On appelle les parents très tôt, donc on a appelé les parents déjà, on est lundi, mais en fait on les a appelés vendredi, samedi, dimanche, pour se présenter avant même de voir les élèves.
Individuellement?
C'est ça. Ce qui rajoute du temps, ce qui représente un temps de travail, mais qui va être très vite rentabilisé, parce qu'à partir du moment où les parents nous découvrent de cette façon qui est originale et qui les surprend positivement, bah du coup ça veut dire que tout le week-end ils ont parlé de nous aux enfants en disant que la maîtresse est super, que le prof ou que la prof a l'air très investi, ce qui n'est pas le cas, on n'est pas plus investi que les collègues. La méthode n'est pas chronophage, mais l'impression que les parents ont qu'on est plus investi ou qu'on est des profs sympas fait que ils parlent de nous régulièrement positivement à la maison, et donc les élèves vont faire plus d'efforts.
Qui a un lien
oui,
entre
ça.
Eux et vous, et ça marche cette méthode puisque vous avez des résultats impressionnants, notamment dans le lycée de Drancy, dans le 93.
Oui, c'est vrai que la méthode a été expérimentée en lycée, avec 100% réussite au bac depuis plusieurs années.
100% réussite au bac, là où vous l'avez tenté depuis 2017.
Bon, mais aujourd'hui, au sein du collectif, on est 500 cette année partout en France et la majorité des professeurs qui utilisent cette méthode-là sont profs des écoles et en collège. Et le cœur de la méthode, c'est vraiment de pousser les parents à prendre leurs responsabilités de façon à ce que les élèves prennent leurs responsabilités pour que, justement, contrairement à d'habitude, ce ne soit pas nous, les profs, qui soyons censés tout prendre sur nos épaules.
Ça veut dire que quand ils rentrent chez eux, le soir, vos élèves, les parents sont plus impliqués, ils vont s'assurer qu'ils ont fait les devoirs.
Oui, c'est ça.
Ils vont leur demander comment se sont passés les cours dans la journée.
Exactement. En fait, c'est un travail que les parents devraient faire, mais que pour toutes sortes de raisons, ils ne font pas, en particulier en quartier populaire. Mais les parents souvent sous-estiment l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur la scolarité de leur enfant en se disant je laisse la maîtresse géniale ou le prof génial. Et c'est là où le mythe du prof héros est très important, c'est que les élèves, comme les parents, sont souvent convaincus que la réussite scolaire dépend du génie du pédagogue ou de la maîtresse ou du prof. Ce qui est très sympathique, on a tous en tête des images un peu d'Épinal du professeur des cercles des poètes disparus ou du professeur d'Albert Camus, Monsieur Germain, ce prof magique un peu qu'on rêve tous d'avoir, et c'est très sympathique, mais le problème c'est que du coup ça fait poser sur nos épaules à nous en tant qu'enseignants toutes les responsabilités.
Donc vous dites partageons.
C'est ça, en fait quand on appelle les parents on dit nous ne sommes pas des héros quoi, on va faire notre boulot, mais si vous faites pas le vôtre et si les élèves font pas le leur, on va pas y arriver.
Et les élèves ils vous remercient de ça? Ou est-ce qu'ils trouvent que le fait de parler à leurs parents, c'est peut-être...
Les élèves ne remercient pas en début d'année. Ouais. Ils sont pas contents. Ils sont hostiles. Ils ont l'impression, surtout, c'est triste, mais souvent, les enfants, comme les adolescents, ont l'impression que les adultes leur en veulent, ou qu'ils les comprennent pas, ou ils ont l'impression que les profs sont là pour les rabaisser, ce qui est triste, parce que les profs essayent de faire du mieux que possible leur métier, non pas pour rabaisser les élèves, mais pour les tirer vers le haut, malgré tout ce qui va pas dans notre métier. Mais au bout d'un moment, les élèves se rendent compte qu'en fait, ils sont capables d'y arriver.
Ils sont gagnants aussi. Ouais. Un dernier mot, crise des vocations chez les enseignants. Il n'y aura pas forcément un prof devant chaque élève encore en cette rentrée. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui nous écoutent et qui peut-être hésitent? Vous l'aimez, votre métier?
En fait, c'est un beau métier, mais c'est un métier difficile, qui est rendu très difficile par les politiques éducatives catastrophiques, les salaires qui sont pas à la hauteur, les conditions de travail qui se dégradent et le prof bashing qui existe et qui est très désagréable. C'est vrai que la méthode supprime beaucoup de violence qu'il y a dans le métier. On crée une espèce de bulle avec les parents et les élèves, ce qui fait que le métier est moins difficile. Mais mon message, c'est plutôt aux parents d'élèves qui nous écoutent. Les profs sont compétents. Soutenez-les, parce que sinon, on va pas y arriver.
Soutenez-les et impliquez-vous. Merci beaucoup, Jérémy Fontagneux, d'être venu défendre votre méthode ce matin. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales, SES, comme ils disent, auteur de Le mythe du prof héros. C'est aux éditions des Liens qui libèrent. Je vous laisse y aller. Je voudrais pas vous empêcher d'aller faire la rentrée. Merci en tout cas d'être venu dans le studio d'RMC ce matin. Il est 7h20.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, nous rejoint. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, c'est la rentrée ce matin, mais il y a un sport national qu'on a tous pratiqué cet été pendant nos vacances, c'est l'apéro.
Oui Apolline, les Français sont les rois de l'apéro. Et alors, il n'y a pas si longtemps que ça, figurez-vous, qu'on croyait que boire l'apéro, c'était bon pour la santé.
Moi j'aime beaucoup que vous nous fassiez l'éloge de l'apéro le jour de la rentrée.
Bah oui.
C'est vrai que c'est important
continue.
Ce soir de se remettre. Et puis Arnaud Demange va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Jean-Louis Borloo ce matin. Le grand retour de Jean-Louis Borloo, ce sera à 8h30. Mais dans un instant, Arnaud Demange, ne bougez pas. On est là dans 50 secondes. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21 sur RMC et RMC Story à la télé, Canal 23. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, d'après une étude, 82% des Français considèrent que l'apéritif fait partie du patrimoine national. Je suis même étonnée qu'il y en ait 18% qui répondent pas oui. Et pour vous, ils ont bien raison.
Oui Apolline, un chiffre d'autant plus surprenant que dans le même temps, la consommation d'alcool baisse. Hein. Apparemment, c'est pas contradictoire. En réalité, ça prouve que l'apéro, c'est tout simplement une tradition et que pour les Français, les traditions, ça compte.
Une tradition ancienne, l'apéritif ?
Oui, alors très ancien, mais ça a beaucoup changé avec le temps. Hein. Boire et manger avec des copains, vous vous doutez bien que c'est vieux comme le monde. Par exemple, les Romains le faisaient déjà. Alors bien sûr, ils n'avaient pas de pastis. Eux, les Romains, ils buvaient du vin sucré aromatisé au miel juste avant le dîner. Alors on buvait ça en mangeant des fruits de mer, par exemple. Mais à l'époque, ça avait surtout une fonction religieuse, puisqu'on buvait en l'honneur des dieux pour leur rendre hommage. Donc rien à voir avec aujourd'hui, mais le principe était déjà là.
Comment ça va évoluer?
Alors au XVIIIe siècle, ça évolue justement en apéritif, sauf que le mot n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Apéritif, ça voulait dire ouvrir dans le sens de commencer. Commencer un repas, par exemple. On croyait que boire quelque chose avant de dîner, ça avait des vertus médicinales.
Ça peut.
Que ça nous permettait d'éliminer, de digérer, bref, de bien manger. Et c'était pas forcément de l'alcool. Ça pouvait être des boissons à base de plantes ou même du lait, figurez-vous.
On trinquait déjà ?
Mais bien sûr, trinquer, c'est un rituel qui date du Moyen-Âge. À table, on levait son verre en signe de bonne santé. On appelait ça porter une santé. C'était un vrai truc de chevalier. Et comme aujourd'hui, on trinquait en signe d'amitié, là encore, on voit bien que l'apéritif est lié au plaisir d'être ensemble.
Comment ça évolue jusqu'à devenir lié à l'alcool ?
Alors, en fait, ça vient de l'Italie. Les premiers apéritifs, les liqueurs, les vermouths, c'est là-bas. Au 19e siècle, des boissons qu'on consomme aujourd'hui naissent en Italie, comme le Campari ou le Martini. Ça traverse les Alpes, ça arrive ensuite chez nous. Et justement, l'arrivée de ces alcools et le développement des cafés va faire de l'apéritif un art de vivre qui s'est répandu dans le monde entier.
Et pourquoi les Français en particulier, sont si attachés ?
Alors justement, les chiffres du sondage parlent d'eux-mêmes, c'est très intéressant, puisque 73% des Français choisissent des apéritifs qui viennent de leur région. Ce qui signifie donc que ce rituel est directement lié à un ancrage local. C'est une célébration des terroirs, en fait. Le rosé en Provence, le vin blanc en Alsace ou le muscat pétillant en Corse. Dites-moi ce que vous buvez, Apolline. Je vous dirai d'où vous venez. Bref, l'apéro, c'est une question d'identité.
À la vôtre, Arthur, et à la vie. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et je rappelle, évidemment, à 7h24, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour,
Arnaud,
bonne rentrée.
Arnaud, face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV. Je reçois l'ancien ministre, ancien maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo.
Oui, on passe de l'apéro à Jean-Louis Borloo, voilà, sans transition aucune. Alors, sa parole est rare dans les médias, c'est le vieux sage, tout le monde dit, hein, ça a été un grand ministre du logement, il a vachement réussi à Valenciennes. Et en même temps, peut-être, hein, mais j'ai jamais entendu personne dire « Je veux plus vivre à Nice, moi, j'ai demandé ma mutation à Valenciennes. » T'as vu le boulot de Borloo, c'est quand même incroyable comme ville. Jean-Louis Borloo a fondé l'UDI, un parti du centre qui a tenu son université d'été à Orléans vendredi, capitale de la région centre. Ils ont mis le centre au centre de la région centre. C'est tellement mignon, les communicants. Et à cette occasion, Jean-Louis Borloo a demandé une mobilisation générale pour la jeunesse de France. Parce que c'est la mode de draguer les jeunes et de montrer du doigt la situation des boomers. D'ailleurs, depuis qu'on a soulevé le débat des boomers, c'est tellement marrant, mais le discours de ces derniers a changé. Hein. Mm. Il y a 3 mois, vous en croisiez un, c'était « Ben moi, j'ai acheté la maison avec mon premier job en 81. À l'époque, je l'ai payé 120 000 francs. Je revenais de mon voyage à Katmandou et puis j'ai rencontré ta mère. Et comme à nous deux, on gagnait 1300 francs, ben on a pu prendre la maison à Cannes. Oh, c'était le bon temps. J'aimerais pas être jeune maintenant. » Et ben depuis une semaine, ah ouais, dès que vous croisez un Jean-Michel sur
murs.
Facebook, ah non, c'est autre chose, c'est carrément ben « Nous, on marchait pieds nus dans la neige. Il y en a marre de critiquer les boomers. On poussait des wagonnets de charbon 70 heures par semaine. On mangeait qu'une fois par jour. C'était dur. On n'avait pas des Nintendo Switch là pour s'amuser. On mettait du sel sur les limaces et on les regardait fondre. C'était ça notre manière de nous distraire. Une orange à Noël. Bref, c'est une façon pour Borloo de soutenir Bayrou qui a bien besoin de ses copains en ce moment. Ne serait-ce que pour l'aider à déménager lundi prochain. Il a demandé à ses enfants aussi de l'aider, mais ils ont répondu « Eh oh, on va pas porter tes cartons, hein. On doit déjà porter nos valises depuis que tu nous as mis à Bétaram, c'est déjà pas mal. » Moi, j'aime bien Borloo, je suis content de le voir revenir. C'est le sosie de Colombo, c'est un personnage sympa. Macron consulte en ce moment pour savoir s'il doit dissoudre. Je sais pas s'il va le voir débarquer avec sa vieille Peugeot. « Excusez-moi, monsieur Macron.
« Oui, lieutenant ? »
« Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit ?» Du 9 au 10 juin 2024,
eh ben je dissolvais l'Assemblée nationale.
Vous dissolviez l'Assemblée nationale, et oui, c'est donc vous qui avez tué la 5e République. Il va falloir me suivre, monsieur Macron. Vous savez, ma femme vous aime beaucoup, monsieur Macron. Mais comme elle a 80 ans, je vais pas vous la présenter parce que vous allez me la piquer. Allez, rendez-vous avec Jean-Louis Borloo. À 8h30.
Jean-Louis Borloo à 8h30. Et on vous retrouve, Arnaud, à 8h20. Écoutez, c'est la rentrée, c'est la cloche pour gagner. C'est le moment de vous inscrire. Pour tenter de remporter le coffre RMC à remporter. Attention, 1 000 euros si vous êtes sélectionné, ou alors si vous ouvrez le coffre et que vous osez. Il y aura peut-être dedans un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2, une montre connectée Garmin, un abonnement annuel à Ligue 1+. et un séjour Lagrange Vacances d'une valeur de 1000 euros. Ou même la super totale, c'est-à-dire tous ces cadeaux auxquels on rajoute la somme de 10 000 euros. Vous envoyez coffre au 732-16, coffre au 732-16 et vous avez donc 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Et dans un instant, la météo et le journal, il est 7h28. 7h30 sur RMC, du côté du temps, c'est la pluie qui domine, Géraldine.
Et en particulier sur le sud-est, avec ses 7 départements vigilants orange entre l'Isère, les Bouches-du-Rhône et le Var. Donc on a cet épisode méditerranéen avec des pluies torrentielles qui vont venir se bloquer sur les Alpes. On peut avoir l'équivalent d'un à deux mois de précipitations en très peu de temps. Ça s'arrêtera seulement ce soir. Donc ce sont vraiment des pluies qui vont durer. Ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses orageuses. En 3 du soleil cet après-midi quand même sur le Languedoc. Et pour tout le monde, la fraîcheur, il fera souvent 18 à 23 degrés cet après-midi, 32 en Corse.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Rentrée reportée pour près de 500 000 élèves du Var et des Bouches-du-Rhône à cause, et c'est inédit, des intempéries qui frappent le sud-est depuis hier soir. Eux ne vont ni reprendre le boulot, ni retourner à l'école. Les toughers de l'Aude poursuivent leur rêve parti dans le massif des Corbières, déjà défiguré par les terribles incendies de l'été. Et puis une rentrée sur les chapeaux de roue pour Isaac Adjani, petit prodige de la Formule 1 qui est devenu hier le plus jeune Français à monter sur un podium au Grand Prix des Pays-Bas.
Près de 12 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école aujourd'hui.
Retour à l'école pour les enfants, retour au boulot pour les parents et pour tout le monde. C'est aussi la reprise des loisirs. Tout le monde, ou presque, car dans ce domaine, vous allez l'entendre, il y a encore des disparités, notamment entre les hommes et les femmes. Selon une étude Opinionway pour l'application de sport Gritty, qu'RMC vous dévoile en exclusivité ce matin, 8 Français sur 10 estiment que les mères de famille ont plus de difficultés que les pères à prendre du temps pour elles. Et ça, vous l'avez facilement constaté en région parisienne, Solène Leroux.
À peine sortie de la piscine avec ses deux ados, Anne-Catherine reconnaît qu'elle gère beaucoup, ce qui laisse peu de place au sport, tout le contraire de son mari.
Lui, il pratique de plus en plus le tennis de table. Il est sur place, donc il n'a pas de transport. Moi, j'ai 4 heures. Donc c'est compliqué la semaine.
Mais attention, lui, il s'occupe de la cuisine. N'empêche, jongler entre le couple, les activités des enfants, leurs devoirs, un sens du sacrifice dont sa fille Jade a bien conscience.
Elle s'occupe trop de nous. Du coup, elle ne s'occupe pas assez d'elle.
Plus d'un tiers des mères voient leur responsabilité comme un frein. À leur bien-être, ça tombe à un quart. Chez les hommes, un œil sur son fils Sébastien sent bien que sa compagne manque de temps.
Elle a plus de mal à se l'accorder, mais c'est elle qui choisit de ne pas le faire.
Et pourtant, les tâches semblent bien réparties entre eux. Pareil pour Pia, avec sa poussette chargée d'emplettes sportives au bout des doigts, ils ont la solution.
Chacun une soirée perso dans la semaine.
Mais il reste un hic.
Le yoga, ça dure qu'une heure, le badminton, ça dure 2h30. Donc il y en a quand même un qui gagne dans l'histoire.
Une injustice qu'elle prend avec bonne humeur. Et pour l'heure, avant de reprendre le travail, son sport, c'est de courir derrière son fils.
Pour les parents du Var et des Bouches-du-Rhône, il a fallu revoir complètement le programme car la rentrée a été reportée de 24 heures à cause des intempéries. Ça concerne près de 500 000 élèves. Une décision préfectorale rarissime mais nécessaire selon Franck Delettra, secrétaire départemental du SE UNSA des Bouches-du-Rhône.
J'ai 19 ans d'ancienneté, j'ai pas le souvenir d'avoir comme ça une journée de pré-rentrée décalée. Je pense que il faut primer la sécurité et je pense que si vous demandez à un parent s'il préfère emmener son enfant à l'école avec le risque d'être emporté par les eaux, je crois qu'il préfère rester chez lui. Mais je vous dis, je pense qu'il y a des entreprises qui vont sans doute donner les mêmes consignes.
Lui donnera le coup d'envoi de la rentrée à Pau ce matin avant de rentrer à Matignon où il doit entamer ses consultations en vue du vote de confiance de lundi prochain. François Bayrou recevra d'abord les communistes. Les insoumis et les écologistes ont eux déjà prévenu qu'ils ne se rendraient pas au rendez-vous avec le Premier ministre. La rentrée pour les uns et la fête qui continue pour les autres à Fonjoncouze dans l'Aude où une rêve partie s'est installée ce week-end. Environ 2500 tuffeurs ont pris possession de ce lieu des plus fragile après le terrible incendie qui a ravagé 17 000 hectares dans le massif des Corbières cet été. Pierre Bourgès, vous êtes sur place en direct ce matin pour RMC et on peut le dire, la fête sauvage se poursuit.
Oui, bah écoutez, là je me trouve tout près du rassemblement et ce matin, il y a toujours plusieurs centaines de personnes qui font la fête. Selon les forces de l'ordre, ce sont des Espagnols, des Portugais, des Français notamment. Pour l'instant, pas question de lever le camp avant demain matin, au grand regret des agriculteurs, puisque eh bien, leur crainte c'est de voir leur dernière parcelle cultivable piétinée par les teufeurs. La fête devrait donc durer encore toute la journée ici dans ce lieu, vous le disiez Élise, meurtri par ces incendies. On sent ici encore encore l'odeur de la cendre. Et pour vous donner un ordre d'idée, tout autour de moi, eh bien, ce ne sont que des arbres, des arbustes complètement noircis, complètement brûlés. Et alors, face aux vives critiques auxquelles font face les teufeurs, un proche de l'organisation avec qui j'ai pu discuter assure que les lieux seront rendus propres et que les dons récoltés lors de l'événement financeront une association qui reboisera le massif des Corbières.
Pierre Bourgès, envoyé spécial d'RMC à Fonjoncouze dans l'Aude. Il est 7h35 et de nouvelles dégradations antisémites ce week-end à Lyon. Au lendemain de l'inscription Free Gaza sur le mémorial de la Shoah, deux autres lieux mémoriels ont été pris pour cible, Constance Bostoen.
La stèle en mémoire de Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien assassiné en 1995, a été complètement recouverte de croix gammées tracées au feutre. Et à quelques mètres de là, à peine plusieurs inscriptions telles que « Mort aux Juifs » et « Mort à Israël » ont été inscrites sur le monument aux morts dédié aux résistants exécutés par les nazis en 1944. Deux actes de profanation au cœur de la banlieue lyonnaise commis au lendemain seulement de la découverte d'une inscription sur le mémorial de la Shoah à Lyon. Tous ces actes font l'objet d'une enquête. Ils ont été condamnés par la préfète du Rhône qui recevra les représentants de la communauté juive cette semaine.
Il est 7h36 sur RMC et il est devenu hier le plus jeune Français à monter sur le podium d'un Grand Prix de Formule 1. Isaac Hadjar a terminé 3e du GP des Pays-Bas hier, remporté par Oscar Piastri. Une première pour le petit prodige de Racing Bulls, Léna Marjac.
Yes.
Il peut savourer ce moment, exulter. Isaac Hadjar marque l'histoire de la Formule 1. À 20 ans, il devient le 5e plus jeune pilote de tous les temps à monter sur un podium et le plus jeune Français. Hadjar au micro de Canal+.
Quand je suis arrivé dans les 3 derniers tours, je me suis juste dit de profiter. Ouais, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, ça a rechuté. Ouais, que de la joie.
Cette joie, il la doit surtout à un coup du sort. À quelques tours de la fin, Lando Norris, pilote chez McLaren, est deuxième quand il subit un problème mécanique et abandonne. Hadjar en profite et récupère la place sur le podium. C'est un moment historique pour la Formule 1 tricolore. Esteban Ocon, pilote français chez Haas, au micro de Canal.
C'est sûr que c'est une journée qui va rester gravée pour lui pour toujours. Et il a fait tellement un bon week-end que voilà, il le mérite complètement.
C'est un moment gravé, un moment inoubliable, mais Isaac Hadjar l'a répété, il en veut plus.
Et j'ai toujours voulu être là. C'est mon premier podium en F1. J'espère en faire plein d'autres.
Et un autre podium, pourquoi pas dès la semaine prochaine, à Monza, en Italie.
À l'US Open, il n'y a plus aucun Français engagé après les défaites de Manarino et Rinderknecht en 8e de finale. Et puis le football avec cette victoire 1-0 hier soir de Lyon sur Marseille en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Marseille qui devrait bel et bien se séparer d'Adrien Rabiot. Le club a trouvé un accord avec l'AC Milan pour le transfert du milieu de terrain des Bleus.
Et puis le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'AS Divine Krishna. L'outsider, c'est le numéro 10, Serine.
C'était le journal des Lys d'Angers, 7h37 sur RMC. On part au 32-16. Il y a Nicolas qui nous appelle de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Nicolas.
Bonjour. Bonjour.
Alors Nicolas, pour vous ce matin, ça devait être la rentrée des enfants, mais c'est pas le cas évidemment. Avec les intempéries, ça a été annulé. Comment vous réagissez-vous?
Ben, je trouve ça un peu choquant. Hein. J'ai l'impression qu'on préserve les enfants dans le monde dans lequel on vit. Bon, en fait, il pleut 3 gouttes, je suis sur Gardanne.
Ouais.
Il n'y a pas de raison de fermer une école ou de décaler tout le monde.
Donc pour vous, vous avez un fils ?
Ouais, j'ai un fils de 13 ans, tout à fait, Johan.
Donc vous allez devoir le garder à la maison ?
C'est ça. Donc je trouve ça un peu bizarre. Parce que l'été, c'était pareil, il faisait trop chaud, on les a gardés à la maison. Enfin, je sais pas, on n'est pas dans un pays du sud maghrébin ou en Afrique. Je veux dire, la moindre des choses, c'est d'aller à l'école, même s'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, quoi.
Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et vous n'avez pas l'impression, là, au moment où on se parle, qu'il aurait été empêché d'y aller ? Il n'y a pas de transport scolaire, d'ailleurs, hein.
Non, tout à fait. Là, je suis dans la colline en train de promener avec ma chienne. Donc, il pleut tout à fait normalement, même si même une pluie fine. Il a eu deux orages un peu forts cette nuit. Mais bon, je pense que c'est plus pour les préfets, pour éviter d'avoir des problèmes, de dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, naninana.
Oui, c'est par précaution, ouais. Quoi, comme on dit maintenant.
Ouais. Mais bon, au final, on les préserve. On les préserve, les enfants, au lieu de vraiment d'affronter les vraies choses de la vie, quoi. C'est dommage.
Donc,
ça
n'existait
pas il y a 20 ans.
Un ciré, on y va. Vous avez toujours vécu dans la région?
Tout à fait.
Et donc vous n'avez jamais connu ça quand vous étiez enfant?
Ah ben non, mais je pense pas que Pauline vous non plus.
Bah non. Alors je vous avoue qu'à Paris, il y a des jours d'orage quand même, il y a des jours de gros orages, mais oui. jamais de quoi. Bah voilà, on met des bottes et un ciré quoi.
C'est
C'est ça, on en est là. Bon, on en est là, on verra dans 10 ans, on en fera.
On y reviendra d'ailleurs à 8h10 tout à l'heure avec la représentante des professeurs hein, dans votre département. Nicolas, merci pour votre témoignage, bonne promenade avec la chienne. Et je trouve ça bien sympa d'imaginer qu'on vous accompagne justement sur les promenades du matin quand vous allez promener le chien. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il y croit encore, François Bayrou, qui va rencontrer tous les partis politiques. Ça commence avec les communistes à 17h tout à l'heure. Mais pour vous, c'est niette. Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La France Insoumise qui n'ira pas rencontrer François Bayrou. Pour vous, le Premier ministre, il doit quitter son poste. Il n'y a rien à négocier. Vous êtes par ailleurs économiste. Votre analyse, votre regard dans un instant. À tout de suite.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellente journée à l'écoute d'RMC. Il est 7h43. Opération séduction ou de la dernière chance du Premier ministre. François Bayrou qui y croit encore hier sur les chaînes info pendant 1h30. Il a annoncé recevoir à partir de cet après-midi les chefs de parti. Ça commence à 17h avec les communistes, mais il n'y aura pas la France Insoumise. Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour à
vous. Vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis. Vous êtes en studio ce matin, mais votre parti ne sera pas à Matignon cet après-midi. Il n'y a plus rien à en tirer.
Écoutez, je remarque que M. Bayrou insiste inutilement auprès des Français, des élus qui ont très bien compris ce qu'il veut faire, c'est-à-dire une politique, poursuivre une politique en faveur des plus riches, en défaveur de tout le reste de la population, qui est en fait une continuité de la politique menée par Emmanuel Macron depuis 8 ans.
Mais vous êtes d'accord sur le constat, vous-même vous êtes économiste, vous êtes d'ailleurs présidente de la commission économique de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il dit, François Bayrou hier à propos de la dette, que la France c'est une cale qui se remplit d'eau depuis 50 ans.
Première chose, qui a mené la France dans un déficit public abyssal? C'est bien ceux qui sont aux manettes de la politique économique depuis 8 ans, c'est-à-dire tous les gouvernements de M. Macron, dont fait partie le gouvernement de M. Bayrou. Et cette politique macroniste, précisément, amène le pays dans un désordre, dans un désastre économique. Pourquoi ? Parce que notamment, il se prive de recettes publiques, de recettes fiscales absolument indispensables. Pourquoi ? Parce que des cadeaux fiscaux ont été réalisés, notamment en faveur des plus riches, en faveur des profits des multinationales, dès le départ. Et tout ça coûte 60 milliards par an à l'État.
Et vous, si vous étiez au pouvoir, vous arriveriez à la baisser, cette dette ? Est-ce que ça fait d'ailleurs partie de vos objectifs ?
Bien entendu, vous savez, on a un contre-budget qu'on présente, la France Insoumise, tous les ans. Et dans ce contre-budget, il y a une diminution progressive du déficit public. Un, parce que, on
mais avec,
assume...
Avec plus d'impôts et moins, alors, pas moins de dépenses.
Moins d'impôts pour la quasi-totalité des Français, sauf une minorité de Français qui s'enrichissent d'année en année, qui sont de plus en plus riches. Vous savez, la fameuse taxe Zuckmann, c'est 2% sur le patrimoine de 1800 personnes seulement ultra riches.
Les foyers les plus ultra riches.
Et qui ont 100 millions d'euros de patrimoine. Rien que ça, ça amènerait 20 milliards d'euros à la France, c'est-à-dire la moitié de ce que demande M. Bayrou, mais ce qu'il demande lui sur le dos des retraités, le dos des malades, le dos des familles, etc.
François Bayrou, il dit hier que la taxe Zuckmann, c'est inconstitutionnel.
Mais c'est faux. D'abord, c'est faux. Et voyez, du coup, il se raccroche un peu aux branches pour essayer de rester, ce qui est absolument inutile, en racontant par ailleurs
mais il a
des inepties.
Mon problème, c'est pas qu'il y ait des riches en France, mon problème, c'est qu'il y ait des pauvres.
Et le problème, c'est que il y a une concentration des richesses. Bien entendu, quand vous enrichissez une toute petite partie de la population et qu'en plus vous ne leur faites pas payer leur juste part d'impôt, bien entendu, ça donne l'austérité budgétaire, ça donne la baisse des aides sociales, ça donne la baisse des pensions de retraite, ça donne la suppression de jours fériés. Tout ça, c'est un choix politique.
Aurélie Trouvé, lorsque Olivier Faure dit hier, donc le premier secrétaire du Parti Socialiste, que si Emmanuel Macron l'appelle à gouverner, il ira, est-ce que vous iriez ?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, celui qui est responsable de cette situation, c'est le président Macron. La question se pose d'ailleurs envers ce président. Soit-il resté dans l'histoire comme le président de la République qui se sera obstiné jusqu'au bout dans l'échec pour détruire le pays, ou non ? Et dès lors se pose la question de son départ. Tout le reste, c'est de la science-fiction.
S'il ne part pas, Est-ce que c'est pas quand même mieux que rien d'avoir un premier ministre issu de ce qu'était votre Front populaire?
Vous voyez bien que c'est de la science-fiction. Qui croit encore aujourd'hui que le président Macron est capable de nommer un gouvernement pour mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire?
François Bayrou ou Olivier Faure, il y a une petite différence quand même pour vous.
Il est incapable aujourd'hui de nommer un nouveau gouvernement pour le programme du nouveau Front populaire.
Non mais attendez, ne répondez pas, il en est incapable. Olivier Faure, il dit, s'il m'appelle, j'y vais. C'est ultra clair.
Alors, d'abord,
est-ce qu'un gouvernement dirigé par un socialiste issu du Parti socialiste, le Parti socialiste qui faisait partie de votre nouveau Front populaire, écoutez, c'est mieux que rien.
Mais pour faire quel programme? Parce que voyez-vous, à la France insoumise, nous sommes attachés au programme sur lequel nous avons été élus, qui est un programme qui permet de changer la vie des Français, qui se repose par exemple sur la relance écologique essentielle pour faire sortir ce pays de la récession. Or aujourd'hui, évidemment, nous n'irons pas dans un gouvernement fût-il socialiste ou que sais-je pour faire un programme qui n'est pas celui pour lequel nous avons été.
Aller dans ce gouvernement, j'ai bien compris, non. Mais est-ce que vous vous engageriez à ne pas le censurer?
Je vous l'ai dit, ça dépend de la politique menée. Or, rien n'est dit sur cette politique. Et je le répète...
Vous ne dites pas, si c'est Olivier Faure, on ne le censure pas.
Je dis que si c'est le programme du nouveau Front populaire, mais manifestement, ça n'est pas le cas. Et par ailleurs, je voudrais insister là-dessus. Parce que pendant qu'on discute de science-fiction... les Français continuent à souffrir. Je le rappelle, nous sommes dans un pays où le SMIC, pendant qu'il a augmenté de 12%, les prix en grande surface ont augmenté de 27%. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Beaucoup de parents nous écoutent, j'en fais partie. Aujourd'hui, la rentrée scolaire, les prix des fournitures ont encore augmenté, alors que l'aide n'a
pas
augmenté.
C'est pas ce que nous disent. J'ai reçu Dominique Schelcher, par exemple, le président des magasins U, mais c'est aussi ce que disent le patron, par exemple, d'Intermarché. Ils disent que cette année, vraiment, ils ont réussi à maîtriser l'inflation.
Que les patrons de grande surface vous disent cela, c'est normal, mais moi, je regarde.
Non, ils assumaient plutôt. Les années précédentes, ils assumaient plutôt.
J'assume ce que dit l'UFC Que Choisir, qui est la grande association de consommateurs, qui a fait une étude poussée qui montre que les prix des fournitures scolaires ont augmenté. Et je pense aussi à ces milliers d'enfants.
Plus que l'inflation.
Alors,
c'est ça ma question.
Je continue parce que ça. Excusez-moi.
C'est important, non, c'est très important.
Oui, ça a augmenté plus que l'inflation, premièrement. D'accord? Et deuxièmement, il n'y a pas que ça dans la rentrée scolaire. Il y a par exemple ces milliers d'enfants, vous le savez, qui sont porteurs de handicap, qui n'ont personne pour les accompagner ou qui n'auront pas de scolarisation une grande partie du temps parce qu'il manque des AESH. Et tout ça, et j'en reviens au budget à M. Bayrou, tout ça. Et le produit d'une politique d'austérité qui s'est fait notamment sur le dos de l'école publique. Et donc, en cette journée de rentrée scolaire, je veux dire qu'on a besoin d'une école publique beaucoup, avec beaucoup plus de moyens, avec beaucoup plus de professeurs, de surveillants, d'agents qui s'occupent et d'AESH, d'agents qui s'occupent des enfants. Et vous parliez de par exemple de ces inondations. Mais je vais vous dire, tout ça est le résultat d'une politique qui n'a jamais fait d'adaptation au réchauffement climatique pour les établissements scolaires.
Et donc vivement, effectivement, que ça s'arrête, vous le dites, pas question encore de négocier.
C'est urgent.
Il n'y a plus rien à négocier.
Arrêtons de perdre du temps dans des tractations inutiles et de science-fiction.
Merci Aurélie Trouvé d'être venue ce matin. Vous êtes non seulement députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, mais je le disais, vous êtes présidente de la commission économique de l'Assemblée nationale. Il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans 10 minutes, le journal de 8h. Mais juste avant, on vous retrouve, Louis Sarkozy, parce que c'est lundi et le lundi, c'est la voix de droite. Bonjour.
Bonjour, Apolline.
Et vous vouliez revenir ce matin sur ces dealers qui disent qu'ils ont grand cœur et qu'ils sont prêts à distribuer gratuitement des fournitures scolaires dans les quartiers.
Oui, quand la nature a horreur du vide, quand l'État s'effondre, il y aura toujours quelque chose pour prendre sa place.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, le bonus RMC avec vous, Mathieu. Hommage à Renaud ce matin.
C'est pas l'homme qui prend
le chanteur qui va fêter ses 50 ans de carrière dans un mois avec un livre. Cette année, c'est l'anniversaire du tout premier album de Renaud en 1975. 50 ans de carrière sur lesquels Renaud se confie. Il estime avoir eu de la chance, de bons compositeurs, et il dit vouloir continuer la musique. Renaud, le livre, c'est le titre pour le moment. Un beau livre écrit, co-écrit en fait, par la fille du chanteur, Lolita Séchant. De la chanson Lolita Séchant. Elle avait déjà supervisé la sortie d'un coffret CD vinyle d'un live marquant du chanteur au mois de juin dernier. Renaud, le livre sera plus de 330 pages. Ça doit paraître aux éditions de La Martinière le 10 octobre prochain.
Si le roi des comptes perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
RMC, Apolline Matin. Voix de gauche, voix de droite.
C'est lundi, le lundi, le mercredi, c'est Voix de droite avec vous, Louis Sarkozy. Bonjour.
Bonjour, Apolline.
Ce matin, vous vouliez revenir sur ces dealers qui disent qu'ils ont grand cœur. Ils voudraient distribuer gratuitement des fournitures scolaires dans le Vaucluse. Une véritable opération séduction des trafiquants.
Oui, Apolline, l'univers a horreur du vide. C'est une loi des affaires humaines. Partout où une autorité s'effrite, d'autres s'installent. À Orange, dans le Vaucluse, dans le quartier de Fourchevieille, le vide laissé par l'État français est aujourd'hui frappant, non seulement en raison de l'omniprésence devenue presque banale du trafic de stupéfiants, mais aussi parce que les dealers endossent désormais de nouveaux rôles. Ce samedi, ils avaient prévu une grande distribution gratuite de fournitures scolaires, distribution interdite in extremis par le préfet.
C'est un phénomène isolé ou une tendance qui s'installe ?
C'est désormais monnaie courante. Dans le Gard, des dealers ont même adressé un courrier aux habitants, s'excusant des nuisances du trafic et proposant les services de jeunes motivés pour du bricolage ou des courses. Voilà où nous en sommes, l'État recule sur tous les fronts, son autorité est piétinée, ses ennemis ont goûté au sang, et comme toujours, il rôde, attendant la chute finale. Incapable de faire régner la loi, ni même de l'appliquer, la France s'enlise dans des engrenages administratifs, juridiques et associatifs qui rendent impossible toute réelle dissuasion. Ainsi, les dealers ne se contentent plus de dealer, ils se font assistants sociaux, bricoleurs, mécènes, tout ce que l'État n'est plus.
On voudrait ne pas y croire.
Oui, en vérité, rien de plus banal. Toute autorité criminelle, si elle n'est pas contestée, s'étend. Plus on la laisse s'installer, plus elle confisque les prérogatives de ceux qui l'entourent. Au sommet de son empire, le narcotrafiquant Pablo Escobar construisait des logements, finançait des quartiers et se présentait garant d'une justice locale. Le pire, voyez-vous, c'est le consentement des populations locales qui témoignent de l'efficacité des voyous. Je me souviens encore, lorsque je vivais à Bogota en Colombie, de ces conversations avec des familles populaires qui regrettaient encore Escobar. Cela vous paraît fou ? Eh bien, dans les reportages de ce week-end à Orange, une mère de famille reconnaissait qu'elle était prête à accepter l'aide des dealers.
Vous n'allez pas vous mettre à défendre les dealers, Louis Sarkozy ?
Ah non, je vous rassure, Apolline, en aucun cas. Par contre, je défends les populations désespérées qui recourent à leur aide. Je témoigne de la décrépitude de notre système. Je constate la nullité d'une justice gangrénée et d'une gauche qui s'invente alliée de nos adversaires. Cette même gauche qui, ayant récemment perfectionné l'archétype du député drogué, milite pour les prisons ouvertes, plaide pour la libération des voyous, hurle contre la police et milite aussi pour la non-incarcération des dangereux.
Il y a une solution, à vos yeux ?
Pour les dealers qui se réinventent en agents sociaux, oui. Il n'existe qu'une seule réponse, la loi et la force. Bonaparte, depuis longtemps, aurait chassé cette canaille à coups de sabre et de sabots généreusement distribués par ces mamelouks de la garde. Ici, c'est la France. Depuis Louis XIII et Richelieu, seul l'État règne. Aucune contestation de cette autorité n'est tolérable. Comme les seigneurs fougueux de la Fronde ou les brigands d'autrefois, ces dealers doivent être écrasés. Tous leurs défenseurs, pourvoyeurs ou complices doivent être emprisonnés. On ne plaisante pas avec cela. L'État, c'est la loi. L'État, c'est la France. On ne s'interpose pas entre lui et son peuple.
Merci Louis Sarkozy. Vous n'hésitez pas, vous réagissez au 3216 ou sur le WhatsApp. Au propos de Louis Sarkozy, la voix de droite que vous retrouvez donc chaque lundi et chaque mercredi sur RMC. Et puis le mardi et le jeudi, c'est la voix de gauche. Ce sera donc Cécile Duflot qui sera avec nous demain matin. Dans un instant, le journal de 8h sur RMC avec à la une cette rentrée pour 12 millions d'élèves, sauf ceux des Bouches-du-Rhône et du Var à cause des intempéries. Côté météo, c'est du coup la forte pluie, évidemment, toute la journée et d'ailleurs pratiquement sur tout le territoire. À 8h15, ne manquez pas le retour d'Emmanuel Le Chypre. L'assurance maladie veut faire plusieurs milliards d'euros d'économies. Ça passe par de tout nouveaux arrêts maladie. Il va nous expliquer comment ça marche, Emmanuel Le Chypre. Il est 7h57, à tout de suite. Très bon réveil à tous, très belle matinée, belle rentrée aux élèves. Il est 8h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La sonne cloche en ce moment même dans des milliers d'écoles. C'est la douce musique de la rentrée des classes ce matin. Sauf dans le Var et les Bouches-du-Rhône où elle est reportée à cause de la pluie diluvienne, qu'on attend toujours d'ailleurs ce matin, on va en reparler. François Bayrou entame ce lundi une série de consultations politiques alors que son sort à Matignon semble scellé. Et puis la journée folle qui attend le monde du foot. C'est le dernier jour du Mercato, direction Milan pour Adrien Rabiot.
Et il faut y retourner ce matin.
Oui, c'est ce matin en général que les parents, vous savez, prennent en photo leurs enfants avec les cartables pour immortaliser le jour de la rentrée des classes. Pour donc quelques 12 millions d'élèves de la maternelle jusqu'au lycée, comme ici, écoutez à Rennes.
J'ai trop envie d'y aller. J'ai trop envie d'apprendre à écrire.
J'ai hâte.
En fait, c'est parce que j'ai retrouvé mes copines et la surprise de avec qui je vais être.
Je suis stressée. C'est la première fois que je vais dans cette école. Je connais personne.
J'ai très hâte de voir ma copine qui sera dans la même classe. J'ai pas hâte de voir ma nouvelle maîtresse.
J'ai un petit peu peur parce que je sais pas si les devoirs ça va être difficile.
J'ai déjà préparé mon cartable.
J'ai mis mes crayons, mon agenda, mes gommes, mes colles.
Voilà, et donc la cloche sonne, sauf dans le sud-est, pour tous les enfants qui ont appris hier après-midi que la rentrée était reportée d'une journée dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, ces deux départements du sud-est, en raison des pluies diluviennes qui étaient attendues dans ces départements. Je dis « étaient attendues », Lionel Dian, en direct ce matin de Marseille pour RMC, parce qu'on attend toujours le déluge.
Oui, alors il a plu cette nuit, mais Marseille a été épargnée par les inondations. Actuellement, je peux vous dire qu'il pleut, mais très faiblement. On observe quelques grosses lacs ici et là sur certaines routes, mais pas d'intervention significative des marins-pompiers. Idem dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône, où une bretelle d'autoroute inondée a causé un accident sans gravité. En fait, c'est dans le Vaucluse que les orages ont été les plus violents. Les pompiers ont effectué plus d'une centaine d'interventions cette nuit. Les secteurs les plus touchés sont ceux de Bédarrides, Cadrousse, Orange, Piolenc et Sariance. Les dégâts recensés vont de chutes d'arbres entraînant des coupures de courant à des routes inondées avec des impossibilités de circulation. Il y a aussi des chutes de tuiles ou des effondrements de plafonds. Actuellement, un millier de foyers sont privés d'électricité, mais pour l'heure, aucune victime n'a été recensée.
Le pic dans cet épisode méditerranéen et orageux est attendu là, maintenant, entre 8 et 9 heures, ça s'explique ce matin, le préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, pour justifier, écoutez-le, cette mesure rarissime de reporter la rentrée des classes.
Il est très probable que l'épisode orageux, en tout cas le plus intense, se tienne entre 8h et 9h. Je ne voulais pas exposer la vie des enfants, mettre du monde sur les routes à un moment important. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Tout est question de temps et de lieu. Marseille est la deuxième ville de France. Il n'était pas question de mettre les minots de Marseille ou des Bouches-du-Rhône, de les exposer à une vulnérabilité.
Tiens, puisqu'on parle de Marseille, Marseille est la métropole d'ailleurs où il y a une grande nouveauté ce matin, ça concerne les transports en commun qui deviennent gratuits pour les plus de 65 ans et pour les enfants de moins de 11 ans. C'est pareil aussi à Rouen, en Normandie, pour tous les moins de 18 ans, tous les mineurs. Donc Rachel Sadodine, pour RMC, vous avez enquêté sur toutes ces villes, il y en a une quarantaine en tout, toutes ces villes qui proposent déjà la gratuité des transports en commun, sans distinction d'âge d'ailleurs.
Oui, c'est le cas à Niort, Compiègne ou encore Dunkerque. Montpellier, c'est la plus grande métropole d'Europe à avoir mis en place la gratuité pour tous dans les trams, les bus, les métros. 500 000 personnes voyagent gratuitement depuis bientôt 2 ans maintenant et ça fait grimper forcément le nombre d'usagers, plus 27% sur la première année. Aujourd'hui, 400 000 personnes utilisent chaque jour les transports montpelliérains. Une hausse de la fréquence qui demande à la métropole de débloquer des moyens. Michael Delafosse, le président.
Nous augmentons l'offre de transport. On a mis plus de bus. On va mettre en service une nouvelle ligne de tramway qui va permettre de soulager notamment notre ligne 1. Nous achetons des rames supplémentaires. Et ça, c'est une montée en puissance progressive que nous faisons.
Et le maire de Montpellier assume d'allouer 30 millions d'euros au transport sur un budget métropolitain total d'un milliard d'euros. Il dit compenser la baisse des revenus par une hausse du versement mobilité des entreprises. Seulement voilà, selon Force Ouvrière, le syndicat dans les transports sur place, ça ne suffit pas. Il déplore une hausse des incivilités. Impossible d'obtenir un chiffre. Mais face à ce problème, la métropole a mis en place une police dans les transports, 42 agents.
Et ça donc dans le contexte de la chasse aux économies. Il y a une semaine du vote de confiance, vous le savez, à l'Assemblée nationale, c'est le sort de François Bayrou qui se joue en ce moment s'il n'est pas déjà scellé. Ça va jouer précisément en ce début de semaine puisque le Premier ministre va consulter les partis politiques d'opposition pour parler de la dette. Tout ce début de semaine et l'intervention du service politique à RMC. Il a refusé de faire son au revoir hier lors d'une interview sur les chaînes d'infos dont BFM TV. Mais ça ressemble quand même à une tournée d'adieu.
Oui, d'abord dire adieu aux Français. Vous l'avez dit, François Bayrou a beau avoir répété qu'il ne voulait pas dire au revoir. Hier, le Premier ministre a pris la parole pour la 5e fois. En une semaine, il sature l'espace médiatique et il prévoit déjà de renouveler l'exercice dans un 20h demain. Car son obsession reste la
même, c'est de convaincre les Français sur la gravité de la dette. Mais ce sont les forces politiques qu'il faut tenter d'amadouer. Opération de la dernière chance vouée à l'échec, il faut le dire. Il recevra dès aujourd'hui les oppositions, en tout cas celles qui ont accepté son invitation, les communistes cet après-midi, les socialistes jeudi. Avant cela, ce sera le RN. Elles se rendront à Matignon, oui, mais pour lui dire qu'elles voteront contre lui. Le Premier ministre a beau avoir esquissé hier quelques inflexions, la mesure sur les deux jours fériés supprimés, la plus urticante, elle est discutable et amendable. Cela n'a aucun effet sur les oppositions. Allocution pathétique, crépusculaire, dit le patron du PS, Olivier Faure. Pour un stratège du RN, pour être clair, c'est plié.
La politique, c'est aussi ce maire qui part en guerre contre les fast-food. Dans le département de l'Aisne, à Fère en Tardenois précisément, commune de même pas 3000 habitants, où il y a 6 fast-food. Ça fait un fast-food pour 500 habitants. C'en est trop pour le maire qui vient de prendre un arrêté pour interdire carrément l'installation de toute nouvelle enseigne. C'est ce que nous dit sur place Lucas Laubert pour RMC.
C'était l'attraction du week-end dans la commune. Un nouveau kebab a ouvert ses portes, de quoi attirer Dan et ses amis.
Ça fait un peu d'animation pour manger une petite bouffe ensemble, franchement c'est bien.
Alors forcément, face à la décision du maire d'interdire l'installation de futurs fast-food, il n'est pas vraiment convaincu.
On ne peut pas interdire un commerce de se lancer non plus, il y a des gens qui veulent travailler. Tant qu'ils veulent et que ça marche, tant mieux pour eux.
Pas pour le maire qui estime que c'est la survie du centre-ville qui est en jeu. Il reste un seul restaurant traditionnel dans le village contre 6 fast-food, presque tous dans la rue principale. Beaucoup trop pour Nicolas.
Ça manque de resto. Juste à côté, il y en a un qui est fermé, un vrai resto. Il faudrait diversifier un peu plus l'offre.
Il y a quelques années, la situation était totalement différente, se souvient Lucien. Quand il a ouvert son fast-food, il y a 8 ans, il était presque le seul.
Quand je suis arrivé, je crois qu'il y en avait un. Ensuite, il y a des pizzas qui sont arrivées, des distributeurs à pizza.
Et depuis, il vend de moins en moins de burgers. Bras croisés devant sa salle de restauration vide, il craint l'avenir.
Il n'y a pas besoin de 6 fast-food dans un petit village de 2500 habitants.
Si ça continue comme ça, vous n'allez pas pouvoir continuer.
Ah bah c'est clair et net.
La préfecture de l'Aisne doit encore se prononcer sur la légalité d'une telle interdiction.
Et puis journée folle en perspective là dans le monde du foot, c'est la dernière journée du mercato, il y a plein de dossiers qui doivent être réglés avant ce soir 20h en France, plein de questions, est-ce que Donnarumma va rester à Paris? La presse britannique dit ce matin que c'est fait pour le méga transfert du suédois Isak vers Liverpool pour 150 millions d'euros. Alors chez nous en France, c'est le dossier Adrien Rabiot qui nous occupe, un milieu de terrain qui va quitter Marseille pour l'Italie, Fabrice Hawkins.
Le Milan AC va payer 10 millions d'euros pour récupérer Adrien Rabiot. C'est le prix négocié entre Rabiot et la direction marseillaise. Enseignant à Milan pour 4 ans, le milieu de terrain tourne une page qui avait pourtant tout d'une belle histoire. L'ancien parisien a été adopté très vite par les supporters phocéens la saison dernière après ses performances de haut niveau. Mais la bagarre dans les vestiaires lors de la première journée de Ligue 1 après la défaite de Marseille contre Rennes, qu'il a opposé à son ex-coéquipier Jonathan Roux, a eu raison de son aventure à l'OM. Le natif du Val-de-Marne retrouvera Massimiliano Allegri à Milan avec qui il a déjà travaillé à la Juventus. Ironie de l'histoire, Rabiot pourrait rejouer contre Roux dès son premier match de championnat le 14 septembre face à Bologne.
Marseille tiens, qui a perdu 1-0 à Lyon hier soir pour la fin de la troisième journée. 3 victoires en 3 matchs d'ailleurs pour les Lyonnais.
C'était le journal de Quentin Vinet. Pardon, j'étais en train d'essayer de pas me tromper sur le nom de l'invité qui arrive. Marion Chopinet, c'est tout de suite.
Jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Parce qu'on en parlait évidemment dans le journal de Quentin Vinet à l'instant, jusqu'à 150 mm d'eau par mètre carré, ça se passe dans le Gard, dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, mais c'était surtout cette nuit. Et pourtant, la rentrée des classes est perturbée. Bonjour Marion Chopinet. Vous êtes la représentante Bonjour. Du syndicat des profs SNES-FSU pour l'Académie d'Aix-Marseille. La rentrée, elle est décalée à demain chez vous. Et vous êtes donc l'actrice du jour, vous allez nous raconter dans un instant, il est 8h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h12 sur RMC et RMC Story. Des pluies diluviennes qui ont eu lieu cette nuit dans le sud-est, des transports scolaires qui ont été suspendus et la rentrée qui est carrément décalée pour 500 000 élèves des Bouches-du-Rhône et du Var.
RMC, l'actrice du jour.
Bonjour Marion Chopinet. Vous êtes co-secrétaire du syndicat des profs SNES-FSU pour toute l'académie d'Aix-Marseille. Ça se passe comment chez vous ce matin? Est-ce que vous avez des nouvelles des profs qui donc vont pas pouvoir faire classe?
Alors pas de nouvelles des collègues. On a beaucoup échangé hier sur la réorganisation nécessaire de cette rentrée. Là, pour l'instant, tout le monde a pris acte que tout était reporté de 24 heures et surveille les mails pour voir comment tout ça va s'organiser. Dans les collèges et les lycées, les rentrées des élèves se font de façon échelonnée par niveau. Donc il va falloir un peu replanifier pour ça et ça reporte de 24 heures le début des cours. Voilà, tout le monde se réorganise. Comme les familles d'ailleurs qui doivent garder leurs enfants aujourd'hui et qui ont dû s'organiser un peu à la dernière minute hier après-midi.
Et qui pour certains ne comprennent pas forcément. On a eu un auditeur tout à l'heure, il était en train de promener son chien, il disait il pleut 3 gouttes et j'ai mon gamin de 13 ans qui est obligé de rester à la maison.
Oui, alors c'est sûr que alors ça a été un peu violent cette nuit à Marseille, en tout cas ça n'a pas l'air d'être des pluies diluviennes. J'imagine qu'un préfet ne prend pas cette décision comme ça de façon non mesurée. C'est quand même reporter la rentrée pour de très très nombreux élèves et personnels. Donc là, pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit la sécurité qui prime.
Donc on a pris contact aussi avec. Oui. Vous respectez la décision du préfet,
oui.
Et vous trouvez que le
là, si cette décision est prise, c'est que voilà, c'est le principe de précaution qui l'emporte, parce que ça peut être dangereux sur le trajet vers les établissements scolaires pour les élèves comme les personnels, parce qu'il y a des problèmes de bâti scolaire, d'établissements qui sont très facilement inondés sans avoir besoin d'alerte de ce niveau-là. Donc voilà, pour nous, c'est la sécurité qui doit primer.
Merci beaucoup Marion Chopinet, vous êtes donc co-secrétaire du syndicat des profs SNES-FSU pour l'Académie d'Aix-Marseille. Il est 8h15.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et à 8h15, c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Le Chip. Salut Emmanuel.
Bonjour à tous.
Emmanuel, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il faut utiliser les nouveaux formulaires pour obtenir des arrêts maladie. Ça va marcher comment ?
Alors, les arrêts maladie sur papier faits par le médecin, transmis à la Sécu, qu'on envoyait comme on pouvait, hein, télécopie, photos, scan, etc. Eh bien, effectivement, tout ça, c'est fini. Seul le formulaire CERFA sécurisé, truffé de 7 dispositifs d'authentification. C'est pire que les billets de banque, hein, papier spécial, hologramme, encre magnétique, etc. Eh bien, il n'y a plus que ce formulaire qui sera accepté. Tout document non conforme sera automatiquement rejeté par l'assurance maladie et retourné au médecin pour qu'il réalise un avis d'arrêt.
Ça veut dire que ça ne passera que par la poste. Vous ne pouvez pas prendre une photo et l'envoyer par texto, quoi.
Alors, si, vous pouvez, mais il y a des conditions de sécurité quand même. Parce que, si, les dispositifs de sécurité, ils sont valables aussi. Vous les voyez aussi sur les...
Y compris quand on en prend, quand on en prend une photo. Quel est l'objectif ?
Alors, principalement, mettre un coup d'arrêt aux fraudes, dont le coût a explosé ces dernières années pour l'assurance maladie. Des coûts multipliés par 4, hein, quand même, depuis la fin du Covid, autour de 40 millions d'euros l'an dernier. En fait, il y a deux problèmes. Alors, c'est vrai qu'il y a des médecins qui abusent. On en a recensé 1000 à peu près, hein, nous dit l'assurance maladie. Et puis, c'est surtout la multiplication des sites et applications qui vous proposent de faux certificats de travail sur Internet. C'est un vrai fléau.
La fraude, elle est si importante que ça ?
Alors, c'est toujours pareil. La fraude n'est pas la seule explication à l'envolée des arrêts maladie. C'est 1 à 2% des dépenses. Les médecins, les 1000 médecins qui sont dans le collimateur, il y a 50 000 médecins généralistes en France. Et puis vous vous rappelez que la Sécurité sociale avait fait des contrôles sur des cas où on jugeait qu'il y avait arrêt maladie suspicieux et abus. Et en fait, il n'y a que 20% des cas qui étaient vraiment des vrais abus. Et en fait, il y a bien d'autres explications à l'explosion du coût des arrêts maladie, hein, le nombre croissant d'arrêts longs, le vieillissement des actifs, la hausse des maladies chroniques, etc., etc. Donc, c'est pas la seule explication, mais c'est toujours pareil. Ça n'est pas une raison pour ne rien faire.
Et donc, à partir d'aujourd'hui, c'est ce nouveau document pour les arrêts maladie. Merci, Emmanuel. 8h17, on accueille Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Salut Arnaud.
Oh et bonjour à tous. Grosse journée aujourd'hui Apolline. Grosse journée. Déjà c'est le dernier jour du mercato de foot.
Et oui Apolline, dernier jour.
L'été a été très riche sur le plan des transferts. Alors deux mouvements importants. Il y a ce transfert XXL déjà. Liverpool qui a misé 90 millions d'euros sur un Français. Hugo Ekitike, 23 ans. Et de son côté, Lille a signé Olivier Giroud, 39 ans, donc Liverpool, ils ont équitiqué. Lille, ils ont antiquité. Et, c'est... et il a déjà commencé à scorer, c'est beau. Et puis, Adrien Rabiot signe au Milan AC. On a en exclusivité la réaction de Véronique Rabiot, son agent, qui nous a déclaré... Bon bah le gamin chez les macaronis, ça a l'air d'être bon. Bon alors après avec les Italiens, t'es jamais à l'abri de tomber dans un club de PD, mais bon, on a déjà passé une saison à l'OM, alors une saison à l'OM sans trophée, d'accord, mais sans homejacking non plus, ce qui est déjà une victoire dans cette ville de racaille. C'est notre actionnaire marseillais qui va être content. Et puis les derniers mouvements du mercato, Naïef Aguerd arrive à l'OM, Jonathan Ikoné signe au Paris FC et Nicolas Canteloup rejoint RMC. Yes, voilà, notre actionnaire va être content là. À part ça, on déconne, mais c'est une journée difficile pour Manu Le Chypre. J'aimerais qu'on soit tous avec lui. Va falloir être sympa, il traverse une épreuve, le deuil, car la charcutière Monique Ranou est décédée. Et depuis deux jours, c'est vrai,
elle existait.
Et depuis deux jours, Manu pleure en serrant contre lui des barquettes de mortadelle. Il se mouche dans des tranches de jambon.
Bon voyage, Monique. Est-ce que Fleury et Michon vont bien? Est-ce qu'on a des nouvelles de Pierre Martinet?
Ah oui.
J'espère qu'ils vont parler de Monique ce soir dans le JT de Léa Salamy.
Eh ben, on le souhaite. Et puis bon, c'est la rentrée. La rentrée des classes, ou comme l'appelle Gabriel Matzneff, l'arrivage de la nouvelle collection.
Oh non.
12 millions d'élèves, 850 000 professeurs qui font leur rentrée. Bon courage à tous, hein, parce que les prochaines vacances, c'est dans 10 jours en fait.
Oui.
Dès le 10 septembre, grève massive. Personne pourra se rendre en classe, les transports sont bloqués. Seulement 10 jours d'activité, dites donc.
Pas mal, non? C'est français.
Eh ouais. Les enfants pleurent en allant à l'école, les parents pleurent aussi, mais de joie, parce qu'ils sont parti. Mathieu Béliard, il danse dans les couloirs depuis ce matin. Il a... C'est toujours un moment pénible, la rentrée. Moi, je supportais pas quand les profs me demandaient « Alors, t'as passé de bonnes vacances ? T'es content de revenir à l'école ?» Non, mille fois non, évidemment non. Le prof de caté qui est là « Oh, t'as beaucoup grandi, c'est dommage. »
Oh non.
C'est la rentrée pour Elisabeth Borne. Avant la sortie, lundi prochain, la ministre de l'Éducation a annoncé l'arrivée de l'intelligence artificielle pour aider les profs à préparer leurs cours. Et là, on pourrait pas demander plutôt à l'IA de prendre la place du gouvernement? Je dirais, quitte à être dirigée sans aucune humanité, il faudrait qu'on ait en affaire à une spécialiste. Alors, j'ai vu un reportage sur BFM. Des substances nocives ont été détectées par la répression des fraudes dans de nombreuses fournitures scolaires. Alors bon, c'est pas si grave que ça. Notre génération, elle mangeait de la colle Cléopâtre. On n'est pas devenu débile pour autant. La France va très bien. Elle est dans un état fantastique. La grosse nouveauté de cette rentrée, c'est les collèges sans portable. Alors là, bon courage aux CPE, les pauvres qui vont devoir confisquer leurs portables aux ados. Autant débarquer sur la colline du crack en disant « Allez, la drogue est confisquée. On me donne la drogue. On la met dans le petit panier. Aouh ! Il m'a mordu, ce con. Qu'est-ce qu'il lui prend ?» Et puis tiens, tant qu'on parle de drogue et de rentrée scolaire, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Orange?
Terrible.
Eh oui, il y a des dealers qui avaient prévu une distribution de fournitures scolaires pour se mettre bien avec les habitants du Tiercar. Alors, la préfecture a interdit l'événement, mais les trafiquants, ils sont vraiment prêts à tout pour redorer leur image. Mais si ça se trouve, dans 8 jours, ils proposent des cours de soutien scolaire.
Eh oui.
Bien, les enfants, wesh, bien ou bien, alors vous sortez 2 feuilles OCB grand carreau et vous les roulez avec de la bonne afghane, hein, pour vous mettre bien avant ce petit exercice. On se concentre, les enfants, où je vous kenne vos grosses daronnes. Voilà, sachant que Yanis de la DZ Mafia possède 1 kilo de cannabis et qu'une barrette pèse 3 grammes. Combien Yanis peut-il viscère de Yankli dans la journée si les Schmitt ne charbonnent pas dans le four? Voilà, on se concentre. Faut apprendre à calculer si vous voulez pas rester des chauffeurs toute votre life. Hein. J'espère que vous avez d'autres ambitions que de gagner seulement 9000 balles par mois, les enfants. Il faut voir grand dans la vie.
François Bayrou, Arnaud, essaye toujours d'obtenir la confiance des députés. Le Premier ministre multiplie les interventions.
Oui, alors ce week-end, le futur ex-Premier ministre était à la foire agricole de Châlons-en-Champagne, comme un démonstrateur. Il était là. Et c'est le moment de profiter de ma grande promo, liquidation sur les acquis sociaux. Tout doit disparaître. Je vous supprime non pas 0, non pas 1, mais 2 jours fériés. Hier après-midi, il était chez nous. François Bayrou était invité des chaînes info. En une semaine, il aura fait TF1, BFM, CNews, France Info, LCI, BFM2. Demain, il sera sur Gulli. Bonjour les enfants. Vous aimez papy et mamie, ces vieux boomers? Eh ben, à cause d'eux, ça va être la misère. Alors n'hésitez pas, faites-les tomber dans l'escalier. On rééquilibre la pyramide des âges. Mardi, Bayrou sera sur l'équipe 21. La France, c'est comme les Girondins de Bordeaux. C'était top dans les années 70. Depuis, ça vaut plus rien. Et mercredi, il sera sur RMC Découverte. Vous savez, dans les documentaires qui passent le soir, là.
Ah oui.
Nous sommes dans les pyramides incas du client du Triangle des Bermudes. Construites par les Illuminati, elles accueillent les nazis francs-maçons qui cherchent le trésor des Templiers de Léonard de Vinci. Dans ce temple, une statue à grandes oreilles trône au-dessus d'un message prophétique. Le 8 septembre 2025, la France s'effondrera car elle aura laissé partir Saint-François Bayrou. C'est truqué ce documentaire. C'est pas rigoureux scientifiquement. À demain.
À demain, Arnaud Demanche, tous les jours en direct, 7h20, 8h20 et en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h23, c'est l'heure de jouer.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC?
Et il est là, le coffre RMC. Vous vous êtes inscrit, vous avez gagné et été tiré au sort. C'est Wilfried qui est avec nous. Bonjour Wilfried.
Bonjour Apolline.
Vous habitez à Dieppe, Wilfried. Félicitations. Au moment où
merci,
on se parle,
merci.
Vous connaissez le principe, vous avez gagné. Vous avez gagné 1000 euros. Mais vous pouvez décider de remettre en jeu les 1000 euros et de tenter d'ouvrir le coffre pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être caché un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2, une montre connectée Garmin, un abonnement annuel à la Ligue 1 Plus et un séjour Lagrange Vacances d'une valeur de 1000 euros, peut-être même la Super Total, c'est-à-dire tout ça plus 10 000 euros. Ou alors, il y a un sac à dos. Alors, on fait quoi, Wilfried?
Allez, on ouvre le coffre.
Wilfried est joueur.
Il ose.
Wilfried ose. Attention. Oh là, j'ai peur. J'arrive pas à ouvrir.
On déchire tout, on s'en fout.
Bon, c'est le sac à dos.
Sac à dos.
C'est le sac à dos, Wilfried, mais c'est un beau sac à dos avec marqué RMC dessus.
C'est bien.
Et c'est la rentrée.
C'est bien pour mettre les affaires.
C'est très bien.
Bon, Wilfried. Wilfried, voilà. En tout cas, vous avez joué et vous avez été quand même récompensé. Félicitations à vous. Et comme Wilfried, vous vous inscrivez, vous avez entendu la cloche, vous avez 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16. Coffre au 732-16. Comme Wilfried, vous vous inscrivez. Bonne chance à tous. Il est 8h25. Et dans un instant, la politique, Jean-Louis Borloo, ne le manquez pas, vous allez voir. Jean-Louis Borloo, c'était l'un des hommes politiques probablement les plus énergiques, les plus respectés de droite comme de gauche, ancien ministre, maire de Valenciennes qui avait relevé cette ville. Eh bien, son diagnostic ce matin, il est très sévère. Il sort du silence pour venir dire combien la France fonctionne mal. Il dit « j'ai ouvert le capot de la voiture France et il n'y a plus rien qui va dedans », mais il a des solutions. Jean-Louis Borloo, ne le manquez pas, c'est tout de suite sur RMC BFM.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Louis Borloo.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien maire de Valenciennes, l'ancien ministre. Vous avez même été président du Valenciennes Football Club. Vous avez longtemps, Jean-Louis Borloo, été l'un des hommes politiques les plus énergiques de France, très respecté à droite comme à gauche. Vous avez d'ailleurs relevé Valenciennes, qui était une ville au 26% de chômeurs quand vous l'aviez, quand vous y aviez été élu. Vous êtes aussi l'homme de l'ANRU, la rénovation du logement social, l'homme de la politique de la ville. Ça va mal finir. Quand on regarde sous le capot de la voiture France, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne et les câbles sont coupés. Voilà ce que vous disiez il y a 3 ans, en 2022. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la situation?
Vous savez, il ne faut jamais gâcher une crise. On voit qu'on est en crise. Bon. On va enfin regarder l'éléphant dans la pièce. Il y a des évidences absolues. La France, aujourd'hui, c'est 162 milliards de déficit. C'est pas 40. C'est pour un compte à équilibre, c'est 162. Et en face de ça, il y a 162 qui vont être à 200 milliards. Mais je vais expliquer pourquoi. Et face à ça, on a une jeunesse qui est complètement désemparée et à l'abandon. Vous avez vu les rapports PISA, une politique du logement qui est à l'arrêt, une tension intercommunautaire absolument épouvantable, un ascenseur social qui est bloqué, un hôpital qui va pas très très bien. Donc, je vais pas faire la litanie. Mais enfin, les poutres essentielles qui fait qu'on fait une nation sont fissurées, sont en train de s'effondrer. Alors, est-ce que c'est de la faute de tel ou tel, ce gouvernement, celui d'avant, ou est-ce qu'on est dirigé par des crétins? Ou est-ce qu'on est dirigé par des voyous, des corrompus? Évidemment que non. ils essaient tous de se donner du mal. La réalité, c'est que nous vivons dans une illusion invraisemblable qui est celle d'un État centralisé tout-puissant. C'est une folie. La vérité, ce n'est pas ça. La France est dirigée dans l'action publique par une 50 000 fiefs de plein exercice, complètement disséminés. Vous avez le millefeuille territorial, dont je ne vais pas parler, 1200 organismes publics, le paritarisme.
Mais est-ce que ça veut dire que le bruit en haut, le bruit au niveau des organisations politiques, le bruit au niveau des ministères est coupé du reste? Vous avez dit les câbles sont coupés, il n'y a plus de transmission.
Non, parce qu'il est très difficile de penser autrement que la façon dont on pense. Vous-même, vous pensez qu'il y a toujours un État centralisé puissant,
en fait, cet État
que la parole publique est performative.
Cet État n'est qu'une marionnette, n'est qu'une...
Non, pas une marionnette. Ce qui s'est
un
passé,
jeu d'ombre.
Allez, je vais la faire courte. 45 à nos jours, avant, l'État faisait tout. C'était organisé. On est pour ou contre. Et puis, en gros, la CGT et la CFDT s'occupaient de la Sécu.
Okay.
On savait qu'ils faisaient quoi. Puis petit à petit, ça dérivait, sauf qu'on n'en a pas pris conscience. Il y a eu les régions. Les départements, c'est plus le préfet. Le paritarisme. Il faut que les Français sachent que les partenaires sociaux gèrent 400 milliards quand les recettes de l'État, c'est 280. Ben, je veux dire, c'est 10 fois. Vous avez 8000 organismes paritaires. Tout le monde s'occupe de tout. Pour la petite enfance, pour l'adulte handicapé, pour le. C'est un gigantesque bordel.
Tout le monde s'occupe de tout.
Il faut donc.
C'est un gigantesque bordel.
Il
faut écrémer.
Oui. Non, il faut pas écrémer. Il faut revenir. Vous savez, il y a quelqu'un qui a vu juste. C'était De Gaulle en 69.
Oui. Mais j'aime bien. Tout le monde dit, De Gaulle.
Non, mais je vous dis sur quoi. Il a fait un discours magnifique. La modernité, le progrès, ça va être de redonner aux provinces leur destin dans les sujets qui les concernent, et à l'État central la responsabilité de ce qui concerne...
Toujours d'actualité ?
C'est toujours
d'actualité. C'est ça qu'il faut faire ?
Mais évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Vous n'en sortirez pas. Les ajustements à la marge, les rustines, quels que soient les efforts de bonne foi des uns et des autres, ce n'est plus possible. Rendons aux Bretons leur destin en matière de logement. Rendons-leur leur destin en matière d'écologie. Rendons-leur leur destin en matière éducative, en matière de soutien aux mamans isolées, aux mineurs isolés, à l'éducation,
attendez,
à la jeunesse.
Vous m'avez parlé d'un pays émietté et vous me dites qu'il faut que chacun se débrouille sur l'éducation.
Non,
c'est-à-dire qu'il n'y a plus de terreau commun ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de programme commun ?
Vous n'avez pas compris. Qui fait quoi ? Il n'y a aucune organisation au monde qui peut fonctionner avec 50 000 fiefs de plein exercice. Ça n'existe pas. C'est simple, les organisations. Ou vous avez une organisation centralisée, on peut y revenir, ou vous avez une organisation fédérale. C'est-à-dire, il y a des sujets qui relèvent de la province, et il y a des sujets qui relèvent de l'État central.
Qu'est-ce qu'on laisse à l'État ? Qu'est-ce qu'on donne aux provinces ?
Alors, l'État, c'est assez clair, la perspective, la recherche, l'espace, le balistique, la sécurité, la justice, l'anticipation, la représentation, les règles. Ça, c'est, moi, je veux un État fort et agile et efficace. Et la province, c'est les peines et soins. Hein, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le logement, la proximité, tout le reste.
Alors prenons l'exemple du logement, parce que vous dites, on a une crise du nid. Ce que vous appelez le nid, c'est le logement.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que si on donne aux élus régionaux la maîtrise, l'organisation du logement, ça veut dire qu'on supprime le ministère du logement ? On va jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'on ne garde pas le ministère du logement et compétences locales.
Mais évidemment.
On supprime, il n'y a plus de ministère du logement.
Mais évidemment. Mais attendez.
Radical.
Non mais c'est pas... Le drame, c'est qu'on a fait semblant de décentraliser, mais la loi et la norme est restée à Paris. Donc, tu t'occupes du logement, ma petite dame, hein, le fils de machin, etc. Bon, et sauf que c'est un mec c'est une dame au Trésor qui écrit, par exemple, l'année dernière, on n'a pas besoin de plus de 230 000 logements en France. Il en faut 500 000 par an. Non, mais c'est, donc moi je dis, moi je suis pour.
Donc les administrations centrales, les ministères centraux, non.
Si dans la compétence de l'État. Madame, c'est faisable. Il faut 3 mois pour mettre ça en place. Il faut 3 mois pour redésigner les provinces françaises. Est-ce que la CAF doit faire la même chose que... Je vous donne un exemple. Pour faire le commissariat à côté de la Boulogne, ça fait 18 ans que ça a été décidé. Par l'État. Sauf que l'État n'a pas une thune. Donc il a fallu avoir la ville de Boulogne, les Bouches-de-la-Seine, le département de la Seine, la région Île-de-France, les fonds, etc. Ça fait 18 ans, on n'a toujours pas fait. On n'a toujours pas fait. Nous, on a inventé le cofinancement. C'est-à-dire, vous voulez faire n'importe quoi, un dojo, il va vous falloir trouver le financement de la ville, de l'agglo, du département.
Donc des dossiers qui durent des années.
Donc 50 réunions, à 50 personnes à chaque fois. Quand ça finit par se faire, c'est plus adapté.
Alors, qui aurait dû payer ? Par exemple, vous voulez faire un dojo, qu'est-ce qu'on fait ? On dit à l'État, te mêle pas, on se débrouille.
Non, mais bien sûr, il faut tout réorganiser. C'est assez simple. On n'aura pas d'ajustement à la marge. Je vous donne un autre exemple. Les médiateurs de rue qui s'occupent des gamins, il y en a 35 000. Enfin, travailleurs sociaux sont là. Dans n'importe quelle ville, vous avez l'équipe de la ville, l'équipe de l'agglo, l'équipe de la caisse d'allocation familiale, l'équipe du département. Mais évidemment, donc enfin, une administration, du reporting, du... On est devenu, c'est tellement compliqué, tellement, qu'on est devenu la France des coordinateurs, des inspecteurs. Regardez l'hôpital. Il y a 20 ans, les médecins géraient l'hôpital. 5% de frais de structure.
Ils le faisaient très bien. On était tous très fiers.
Alors, les petits hommes en gris, on dit non, les médecins, non, ils ne savent pas gérer. Non, non, nous, on va gérer. Ouais, très bien. Vous savez ce qui s'est passé ? Alors, on a créé une nomenclature de 9000, enfin, un truc dément. Il faut remplir la machine à contrôler. Attendez, un chiffre. On est passé de 5 à 34% de frais structure. 30 milliards.
Donc, on enlève cette structure. Il faut l'enlever, cette structure. Il faut laisser ceux qui bossent bosser.
Mais comme c'est pas de la faute de ceux qui contrôlent, il faut organiser. Je ne connais pas de situation.
Ils contrôlent, ils sont payés pour contrôler, donc à un moment, ils contrôlent.
Mais je suis pas contre eux. Je vous dis qu'il faut réviser. Libérons la France. Je vous assure qu'on peut redresser le pays, avoir une efficacité redoutable. Madame, c'est faisable. Et vous savez quoi? Les Français le veulent. Ça vous a échappé, peut-être, mais il y a un sondage la semaine dernière de l'IFOP qui dit « Est-ce que vous souhaitez une France fédérale ?» Vous connaissez la réponse ? 71%. Oui. Donc, on est tranquille.
Mais Jean-Louis Borloo, ça veut dire que ce que vous nous dites,
de commandement
ce que vous nous dites,
en
c'est qu'il y a un trop-plein. En fait, il y a un trop-plein. C'est pas une France du vide, c'est pas une France où on manque, c'est une France où, en fait, il y a tellement de gens qui décident que plus personne ne décide de rien.
Et personne s'y retrouve. À tel point que les gars, là, sur une collecte de 300 milliards, ils sont trompés de 60 milliards à mi-collecte. Même eux, ils comprennent plus rien. Je mets au défi.
Et là, vous parlez de Bercy et des erreurs de calcul et d'anticipation des impôts de Bercy.
Ils sont 133 000 pour ça. Non, mais ça, c'est un truc qui va plus.
Bon. Donc, même eux ne s'y retrouvent pas. Oui, mais attendez, je voudrais vous arrêter un instant, Jean-Louis Borloo, parce que vous avez été ministre de la Ville. Vous parlez à l'instant, par exemple, de l'aide aux mamans solo, de la question de la jeunesse. Vous avez peut-être vu cette information qui est notamment décrite dans Le Parisien ce matin. Des dealers qui veulent avoir un rôle social dans les quartiers. Ça s'est passé notamment à Orange. À la veille de cette rentrée, on les a vu vouloir distribuer gratuitement des cartables et des fournitures scolaires. Ils se font désormais passer pour des associations humanitaires caritatives. Et d'ailleurs, les parents qui sont interrogés, les mamans notamment, elles sont évidemment un peu ambiguës parce qu'elles disent « Bah oui, mais bon, moi, ils me proposent quand même gratuitement des fournitures scolaires. » Est-ce que l'État n'a pas... C'est-à-dire, vous me dites d'un côté, il y a eu trop plein, et de l'autre, en fait, il y a un vide dans lequel une forme de mafia, de narcotrafic s'est installée. Et ça, c'est du concret. Qu'est-ce qu'on fait ?
Mais quand vous voulez vous occuper de tout, être la tutelle de tout, alors que vous n'en avez plus les moyens, que vous êtes le petit joueur à 280 milliards de recettes et 450 milliards de dépenses, vous n'avez plus ni les hommes, ni les moyens. Donc, on ressent l'État sur ses missions essentielles. Ça, ça en fait partie. Maintenant, vous me parlez de la jeunesse, des narcos, des machins, etc. La jeunesse de France, elle est abandonnée, madame. Abandonnée. Il faut bien comprendre la dérive. Regardez les rapports PISA. Regardez les rapports de la protectrice des enfants. Nous avons 40 000 enfants soldats, 40 000 mineurs isolés, 400 000 enfants à l'ASE. Regardez la situation. Je suis allé à Orléans l'autre jour. Incroyable ! Orléans, 91% de baisse de la délinquance des mineurs en 20 ans. 91%. Ils n'ont pas mis 400 chars.
Alors, comment ils ont fait ?
Mais tout jeune à Orléans, dès qu'il va mal pour lui ou qu'il peut créer des problèmes aux autres, il est instantanément, dans la journée, dans l'heure, repéré. Immédiatement, il y a un système qui se met en place. de travailleurs sociaux, d'art, de d'art psychologue, de club de sport. Il est immédiatement sorti. Il y a plus l'école de la rue. C'est extraordinaire. La jeunesse de France. Vous savez qu'on a des richesses extraordinaires. Je vais vous donner un truc qui marche très bien en France. Très, très bien.
C'est bien quand il y en a qui marchent.
Non, mais parce que là, si on a 3 mois pour redresser le truc, bon. Un truc qui marche vachement. Vous êtes d'accord avec moi que le sport à l'école, on le méprise. Le sport à l'université, on le méprise.
On nous dit chaque année qu'on va en faire plus, qu'ils vont en faire un peu tous les jours.
On méprise, d'accord. Mais il vous a pas échappé qu'on est la première nation sportive du monde. On est un pays d'individus. La première.
Oui.
Rapportée aux habitants, madame. On a la meilleure équipe de, là. Les filles, là, viennent de battre les Chinoises, avant-hier. Meilleure équipe de basket au monde, de volley au monde, de rugby au monde, de vote au monde. Non mais attendez, regardez, pourquoi ça marche? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le système, il est fédéral et il est organisé. Ça fonctionne, le sport. C'est incroyable, ces clubs.
C'est des clubs locaux, c'est des villes, c'est des entraînements.
C'est surtout 17 000 licenciés, c'est ça eux les actionnaires, et attendez... 6,5 millions de bénévoles.
Donc on doit s'inscrire.
6,5 millions de bénévoles. La richesse de la France, vous savez ce que c'est? C'est les maires parce qu'ils gèrent des complexités. Et les clubs, alors c'est les clubs de sport, les clubs de culture, les clubs de musique, peu importe. Philippe Séguin avait fait un truc génial il y a 30 ans, à Épinal. Le matin, on apprenait à lire, écrire, à compter. Et l'après-midi, les gamins trouvaient leur talent. Alors dans le sport, dans la musique, dans sa passion, etc. C'est évidemment
Jean-Louis Borloo. Jean-Louis
Borloo,
vous êtes venu.
On ne peut pas laisser les profs tout seuls.
Jean-Louis Borloo, vous êtes venu avec ce rapport que vous aviez écrit. Ça s'appelle l'alarme. Vous l'aviez donné. Oui. Vous aviez fait un plan banlieue en 2018. Vous avez été.
Non, c'était pas un plan banlieue. C'était un plan pour les 10 millions d'abandonnés, hein, les zones rurales, les départements d'outre-mer, tous ceux qui sont pas dans
le train. Il est passé où ce plan? Ça a été ridicule. Ça a été resté dans un tiroir. Cette étude que vous avez faite sur l'alarme, vous l'avez faite il y a déjà 3 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Non mais pardon, à un moment quand même, il faut aussi le dire. Qu'est-ce qui a été fait?
Mais vous savez quoi? Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, on est dans une crise. On n'a pas un problème de gouvernement. On a un problème de gouvernance de la nation.
D'organisation.
De gouvernance.
De la pyramide.
Mais de gouvernance. Donc, le président de la République, il est président, quel qu'il soit d'ailleurs, avec des provinces qui ont pris leur destin, mais avec des parlements de provinces, pas une délégation d'un type à Bercy. Je dis bien, des parlements de provinces. Il faut fusionner ou regarder comment on fait avec la caisse d'allocation familiale. Il faut bien se rendre, on peut pas rester dans un, est-ce que vous savez ce que le paritarisme gère en France?
Oui, vous l'avez dit, considérable.
35%. Mais on ne peut pas rester comme ça.
Jean-Louis Borloo, est-ce que vous avez rendez-vous avec Emmanuel Macron cette semaine?
Non, bien sûr que
non. Non, vous ne lui parlez plus.
Mais il n'a pas parlé avec un brave retraité. Hein,
c'est pas un brave retraité, Jean-Louis Borloo. Vous ne vous dites pas parfois, mais allez, j'y vais.
Non.
Plus jamais.
Mais tout de suite, là. Les Français veulent.
Ouais, enfin, tout de suite, on attend le 8, là, pour l'instant, on attend le 8 septembre. Rien ne va se passer.
Mais attendez, c'est pas vrai. Il y a 4 jours, j'étais avec le président du MEDEF. Les 220 entreprises françaises veulent un plan jeunesse. Il dit, Jean-Louis, on sera là. J'étais avec David Listard, le président de la Saison des maires de France.
En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut oublier d'attendre tout l'État.
Mais évidemment. Sauf que, comme on est dans un grand pays démocratique, si jamais les forces politiques qui sont importantes, moi je vois bien tous ces partis politiques ils essaient de trouver des solutions. Moi
aujourd'hui François Bayrou a convoqué les différents partis, il y en a une partie qui n'y va pas, la France Insoumise n'ira pas, les écolos n'iront pas, ils auraient dû aller parler. Ils auraient dû aller discuter. Vous pensez qu'ils peuvent se mettre d'accord?
Mais se mettre d'accord, c'est la question de savoir est-ce que c'est plutôt la rustine du PS ou celle de François. C'est la gravité, madame. On sera à 200 milliards de déficit. Et vous avez une communauté juive qui commence à envisager de partir.
Ça vous angoisse particulièrement.
Évidemment. Et moi, c'est pas que les narcotrafics qui m'angoissent. C'est une mexicanisation. Les perdus de vue, 1,5 million d'enfants, d'adolescents, de jeunes enfants perdus de vue. Vous savez combien ça coûte?
Ça veut dire quoi, perdus de vue?
C'est qu'on sait pas. Des NITS, ni emploi, ni formation, ils sont au pied des immeubles. Ça coûte 3 points de PIB. Le patron du MEDEF, c'est pas moi, l'autre jour.
Patrick Martin
disait à la tribune, il n'arrive plus à recruter. Ils n'arrivent plus à recruter les jeunes. On est dans une situation qui est dramatique. Ils disaient, s'ils étaient juste bien en forme et bien formés. Alors, il y a des trucs de coaching qu'on peut faire.
Si rien ne se passe
plus
pour vous.
Il dit 3 points de croissance. Comment on peut redresser un pays, madame?
Pardon, mais qui peut faire ça?
Mais les Français vont décider. Mais j'en sais rien.
Vous leur faites confiance. Vous vous dites, il va y avoir probablement des nouvelles élections ou on n'en a même pas besoin.
C'est une modalité. La question centrale, on est toujours dans une monarchie administrative. On s'y est habitué. Vous y êtes habitué. D'ailleurs.
Donc il faut faire comme en 45. Il faut redessiner le modèle.
Mais c'est simple, madame. C'est simple. Tout ce qui concerne les enfants, les mamans, la santé, le logement, les nids, c'est la province avec un parlement. Plus de rapport avec l'administration centrale. Elle, en revanche, on lui dit, allez, alors la chaîne judiciaire, la chaîne de la sanction, la chaîne de l'anticipation, l'espace, les rêves, c'est toi. La perspective, c'est toi. La prospective, c'est toi. Mais comme dans toutes les bonnes organisations...
Pardon, Jean-Louis Barlow, mais pourquoi vous y allez pas?
Où ça?
Pas là, à Matignon.
Ah ben non, mais attends, il n'y a pas de mandat pour faire, c'est pas bon sujet, c'est pas bon... En revanche, moi,
il
n'y
a
vous
pas
dis...
de mandat pour faire. Bon, s'il n'y a pas de mandat pour faire pour quelqu'un comme vous, il n'y aura pas de mandat pour faire pour quelqu'un comme vous.
Mais moi, je veux dire un truc. D'ici Noël. Bon, je vais faire une conférence de presse pour aller un peu plus dans le détail que ce que je viens de vous dire.
Je vais vous proposer de rester avec moi, là. Vous proposer 5 minutes de plus sur BFM TV. Parce que je pense que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais, d'un mot.
Attendez, je termine.
Allez-y.
Plan jeunesse, on peut le faire tout de suite. Tout de suite. Bon. Et maintenant. La vraie réforme globale, on a dérivé en 50 ans sans s'en rendre compte. Et de bonne foi, c'est ça qui est terrible. C'est que tous ces gars-là, la France est devenue un pays de contrôleurs et d'inspecteurs. Mais il faut bien comprendre, qui dirige, ce sont les fermiers généraux. C'est quoi les fermiers généraux? C'est ceux qui avant prélevaient l'impôt pas cher pour le roi en échange des prébendes.
Jean-Louis
c'est
Barlow,
ça l'histoire.
Vous avez dit vendredi à Orléans, j'étais épuisée, j'ai joué ma peau, et vous dites, j'ai finalement accepté de sortir de ma tanière, vous êtes donc revenu, je voudrais quand même vous poser cette question, comment allez-vous?
Écoutez, j'ai jamais été aussi en forme, ça c'est grâce à ma femme, au mien, mes potes, non mais vous savez, quand vous avez beaucoup de chance affective, affectueuse, moi, j'ai une fratrie de deux gosses, ils sont absolument invraisemblables, mais mes copains sont dits,
je suis en train d'en perdre.
Non, oui, mais je crois pas. Bon. En tous les cas, moi, je vais vous dire d'ici Noël avant.
On a 3 mois, mais ça peut se faire.
Faut pas gâcher la crise.
Faut profiter du fait qu'on est au fond de la piscine.
On est au fond de la piscine. Et je vous jure, tout ça va s'aérer. Ça va être une épopée. Remettre la jeunesse de France au toit du monde, de la connaissance, du comportement, de la beauté, de la culture, du sport. C'est génial. Et réorganiser la Bretagne aux Bretons. Voilà, l'Alsace aux Alsaciens.
Merci Jean-Louis Barlow d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h52, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Et tout de suite, les grandes gueules sur RMC avec vous, Alain Marchal. Quel est le programme?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. C'est peut-être la dernière semaine de François Bayrou à l'hôtel de Matignon. Donc, dans les GG, dans les grandes gueules, ça va être une semaine spéciale, la France en crise. Alors, on va démarrer aujourd'hui avec la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima. On va essayer de comprendre les coulisses qui se jouent, si les rendez-vous de François Bayrou avec les formations politiques pour discuter, pour négocier, ça sert vraiment à quelque chose. Sophie Prima, porte-parole du gouvernement, avec les grandes gueules, avec Didier Giraud, l'agriculteur, Zora Bitton, cadre de la fonction publique, et l'avocat Charles Consigny. Alors bien évidemment, on va beaucoup parler politique, on va parler de la rentrée sociale aussi, avec en ligne de mire le blocage, et puis de la rentrée tout court avec la météo qui perturbe pas mal le retour des enfants à l'école.
A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour les grandes gueules.